Bonsoir à tous et à toutes. Soyez les bienvenus, vous qui êtes présents dans cette salle aux facultés Loyola Paris, vous qui participez aussi à cette soirée à distance via Zoom. Nous sommes heureux de vous y accueillir. Alors pourquoi cette soirée? Elle est fournie bien sûr par, son occasion est fournie par la publication de cet ouvrage, Le Partage, Jésus, les premiers chrétiens d'argent, dont l'auteur Jonathan Cornillon se trouve avec nous. Il se trouve que, outre cette publication, ou plutôt il se trouve que cette publication a trouvé une résonance pour un certain nombre d'entre nous qui, aux facultés Loyola Paris, nous essayons à réfléchir aux pratiques de diaconie, pour un certain nombre d'entre nous aussi qui nous essayons à travailler à partir de la parole de personnes en précarité. C'est le cas notamment de Christophe Pichon qui interviendra tout à l'heure, de moi-même aussi. Et puis bien sûr, cela nous donne l'occasion de réfléchir à d'autres théologiens, dont Michel Fédoux qui interviendra tout à l'heure. Cette soirée va se dérouler de la manière suivante. Nous allons laisser la parole à Jonathan Cornillon pour présenter ses travaux. Et puis ensuite, chacun de nous trois essaiera de donner un écho à ses travaux. Christophe Pichon pour la période biblique, Michel Fédoux pour la période patristique et moi pour la période contemporaine. Nous pourrons réagir aux paroles les uns des autres et puis bien sûr il y aura un débat auquel vous pourrez tous et toutes participer aussi bien depuis la salle que à distance. Je laisse Michel Fédoux présenter Jonathan Cornillon.
Voilà, nous sommes très très heureux de vous accueillir. Donc Jonathan Cornillon est agrégé d'histoire et docteur en histoire. Il a préparé et soutenu une thèse en histoire sous la direction de Jean-Marie Salamito, Sorbonne Université. Et cette thèse était d'ailleurs publiée sous le titre « Tout en commun », avec un point d'interrogation, « La vie économique de Jésus dans les premières générations chrétiennes ». C'est paru aux éditions du CERF en l'année 2020. J'ai eu la joie d'assister d'ailleurs à une présentation de ce livre, je crois, il y a 2 ans environ, à la Sorbonne. Et maintenant, donc, Jonathan Cornillon enseigne, donc il est maître de conférence en histoire romaine et en histoire du christianisme à Sorbonne Université. Et il a donc publié cette année ce livre, Le Partage, Jésus, les premiers chrétiens et l'argent, qui va être donc l'objet direct de notre soirée. Et donc, je pense que François va tout de suite lui donner la parole.
Merci. Alors je tiens tout d'abord à vous remercier, bien sûr, pour cette invitation. Je suis très heureux de pouvoir présenter ce livre ici. La perspective de ce livre, qui était déjà celle de ma thèse de doctorat, qui a été publiée sous le titre « Tout en commun », c'était de prendre sur la vie économique des premiers chrétiens une perspective qui était vraiment panoramique et qui ne se contentait pas d'étudier un point précis parmi d'autres, par exemple la collecte de Paul ou le financement de la mission paulinienne, ou alors simplement la façon dont Jésus et ses disciples finançaient leur prédication, mais de prendre tous ces problèmes ensemble et d'étudier aussi systématiquement que possible les aspects économiques de la vie des chrétiens des 3 premiers siècles. Et je pense que ça permet de comprendre beaucoup mieux, en réalité, les logiques matérielles de ces communautés, de croiser aussi des sources qui peut-être sont trop insuffisamment croisées en général, les textes du Nouveau Testament et les textes patristiques qui parfois qu'on fait peut-être pas toujours assez communiquer, et puis aussi de le prendre sous une perspective historique qui avait pour fondement aussi de ne pas mettre trop facilement de côté un certain nombre de textes que, en exégèse historique, on a parfois tendance à trop dévaloriser en principe. C'est vrai de l'Évangile selon Jean, c'est vrai des Actes des Apôtres, et d'essayer de donner un petit peu plus une chance, si je puis dire, à ces textes, de nous apprendre quelque chose sur le plan historique. Et la logique, c'est quoi? C'est la comparaison. La comparaison de tous les textes qu'on a sur une question donnée. Et c'était d'autant plus propice, me semble-t-il, en particulier peut-être pour l'examen historique des évangiles, ça me semble très frappant, c'est que aucun des quatre évangiles canoniques n'a du tout pour priorité de traiter cette question-là. Et les textes qui nous informent, souvent très brièvement, hein, sur la façon dont Jésus et ses disciples vivaient matériellement, dont ils finançaient leur prédication, sont des passages qui sont courts, relativement secondaires dans les différents évangiles, mais pour autant révélateur d'un certain nombre de réalités, et ce qui est frappant à la lecture des quatre évangiles, très cohérent. Ce qui donne, me semble-t-il, à la réflexion historique un fondement assez solide sur des questions qui, de toute façon, sur lesquelles, de toute façon, on ne peut avoir que des conclusions qui restent en partie hypothétiques, qui ne peuvent pas être absolument assurées, c'est évident quand on traite de sujets comme ça, avec de telles sources, mais ce qui m'a frappé, c'est la cohérence des textes, des quatre évangiles, sur cette question-là. Et par la suite aussi, la cohérence d'un certain nombre d'autres textes, y compris de textes patristiques, sur des pratiques matérielles qui pouvaient exister dans les premières communautés chrétiennes, dans leur diversité, bien sûr. Donc l'idée c'était ça. Il y avait aussi un certain nombre d'autres aspects qui me semblaient importants sur le plan méthodologique. Je disais donner leur chance à un certain nombre de textes de nous donner un enseignement historique et aussi essayer de leur donner une chance d'être lus dans leur complexité. Un des exemples, me semble-t-il, dans le partage le plus saillant, c'est dans les sommaires des actes, dans les chapitres 2 et 4, la description de la mise à disposition des biens de la communauté de Jérusalem, qui, à mon avis, a trop souvent été un peu caricaturée dans l'exégèse, et ce qui a pu plus facilement laisser penser que ces textes étaient simplement des sortes de constructions apologétiques très idéalisées, ayant peu de rapport avec la réalité. Alors, quand on rentre dans le détail des textes, ils sont plus complexes, ils en ont l'air. Ils proposent un modèle de mise à disposition des biens qui est plus complexe qu'il en a l'air, et ça donne aussi un peu plus de crédit à leur historicité. C'est vrai aussi de textes patristiques qu'on a pu peut-être là aussi trop souvent disqualifier, notamment les textes apologétiques du IIe siècle, comme étant, effectivement, le genre le dit, des textes apologétiques et donc trop idéalisés ou idéalisant les communautés. Or, il me semble que quand on fait un travail historique un peu précis sur ces textes-là, qu'on sait évidemment chercher à en prendre de la distance par rapport à leur inévitable biais, ils ont quand même quelque chose à nous dire sur le plan historique. Et voilà, ma recherche objectif d'essayer de réussir autant que possible cela. Aussi, l'idée de prendre ces textes sur les trois premiers siècles, c'était une façon peut-être d'essayer de répondre à des questions, alors autant que possible, là encore, qu'on ne se pose pas suffisamment sur les deux premiers siècles du christianisme, un certain nombre de structures, de solidarité ou même de financement, y compris même la rémunération des acteurs religieux dans les communautés, ce sont des choses qu'on voit bien documentées au IIIe siècle et qu'on a tendance à parfois à faire un petit peu sortir du néant au IIIe siècle. La question, c'est comment c'était avant. Et c'est vrai que les sources sont ténues, mais à mon avis, sur certains sujets comme celui-là, elle nous apporte plus de choses qu'on a pu le penser. Et donc c'était aussi l'idée de notamment pour un deuxième siècle qui est, c'est vrai, peu documenté, parfois trop négligé, d'essayer de faire ressortir, dans la mesure du possible, la réalité des communautés de cette époque. Parfois on a au fond un petit peu plus de facilité, c'est quand même pas non plus si facile que ça, mais à retrouver des réalités d'époque paulinienne grâce aux épîtres de Paul est parfois plus dur pour le deuxième siècle où dans un certain nombre de cas on a quand même une documentation qui peut être très réduite. Donc c'est un peu la perspective méthodologiquement que j'ai essayé de suivre avec l'idée d'étudier les pratiques concrètes et de ne pas centrer le propos sur la morale économique de ces communautés. Alors évidemment, ça a une conséquence sur la question de la morale économique, de leur pensée sociale, forcément. Hein. Mais l'idée, c'était avant tout de déterminer les modalités concrètes de fonctionnement de ces communautés sur le plan économique. Et ça avait été un peu moins fait, alors en particulier sur certaines questions, et en particulier par exemple pour Jésus. Hein, c'est on trouvait assez peu de choses dans ce qui s'était fait jusque-là pour essayer de répondre à la question, au fond, comment Jésus et ses disciples finalement leur activité. Alors, ça m'a amené à tirer un certain nombre de conclusions de ma réflexion sur ces différentes périodes, des conclusions qui évidemment sont toujours imparfaites ou incomplètes parce que la documentation est ce qu'elle est. Sur Jésus et ses disciples, ce qui m'a semblé essentiel, c'est qu'on a des textes dans les quatre évangiles qui nous montrent assez clairement qu'ils possédaient de l'argent en commun, hein, que cet argent, en général, il le faisait de dons de personnes qui avaient des moyens. Hein, un des textes typiquement qui met en valeur cela, c'est Luc 8, 1, 3, hein, où les femmes riches donnent de l'argent à Jésus et ses disciples. Jean mais à plusieurs reprises aussi, on a dit qu'ils avaient un coffre commun, hein, en chapitre 12, chapitre 13, il y a deux fois le terme de glossocommon, et un certain nombre de textes qui les montrent utilisant de l'argent ou sous-entendant qu'ils en ont, et éventuellement des sommes pas du tout ridicules. Hein. Alors, je crois que l'épisode le plus saillant en la matière, c'est celui de la distribution des pains, dans lequel il me semble qu'il y a eu trop longtemps une exégèse qui s'est contentée de dire, selon les versions ne sont pas les mêmes selon les évangiles exactement, mais il y a toujours à peu près la même logique, que les questions des disciples disant est-ce qu'on doit acheter les pains, ou tiens, il faudrait peut-être acheter pour 200 deniers de pain, ou alors quand Jésus le demande, il y a notamment de la part des disciples une sorte d'ironie, évidemment ils ne peuvent pas avoir une telle somme d'argent, c'est tout à fait impossible. Et c'est souvent ce à quoi s'est réduite l'exégèse de ces passages, en prenant notamment pour appui l'idée que lorsque Jésus envoie ses disciples en mission, il leur dit de prendre aucun argent et de n'en recevoir aucun. Et là, il me semble qu'il y a une distinction qu'il fallait faire entre l'idée de ne pas avoir d'argent individuellement, hein, et de ne pas être payé pour sa prédication et surtout pas individuellement, et le fait de posséder en commun des sommes d'argent entièrement dédié au financement de la prédication et éventuellement à des actes caritatifs. C'est-à-dire qu'il y a une différence fondamentale entre l'enrichissement individuel ou le fait de posséder individuellement de l'argent et le fait d'en posséder en commun dans la perspective du travail de prédication. Et en revanche, encore une fois, comme je dis, les traces de cela existent. Et en plus, on sait par d'autres épisodes, comme par exemple l'onction à Béthanie, que des dons ayant une certaine valeur monétaire assez importante, pouvait être fait, hein, certes pas en argent, mais quand même, à Jésus ou à ses proches. Ce qui veut dire qu'il y avait des gens suffisamment riches dans les gens qui soutenaient Jésus pour donner des sommes qui n'étaient pas du tout négligeables. Et en faisant retour, évidemment, sur la distribution des pains, on se dit, mais pourquoi cette idée absolument rigide selon laquelle les disciples sont ironiques, alors qu'ils disent, bah, au fond, on aurait peut-être 200 deniers pour acheter des pains, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Bon, évidemment, dans le livre, je reviens plus en détail sur le développement de ces textes. Et ce que j'ai conclu, rapidement, hein, sur Jésus et ses disciples, c'est que, probablement, évidemment, de façon probablement inégale, selon les moments de leur prédication, puisque avec ce type de financement, on pouvait évidemment pas être toujours financé absolument à la même hauteur, de façon stable, de façon absolument sereine, certes, mais à un certain nombre de moments, ils ont dû pouvoir posséder des sommes non négligeables, en commun, dans la perspective de financer bien sûr l'activité, mais aussi peut-être de faire des distributions pour les pauvres, comme ils le sous-entendent à certains moments. Donc pour moi, ce que j'ai trouvé, c'est l'image d'un Jésus et de ses disciples qui n'étaient pas du tout éloignés de l'argent ou complètement indifférents à l'argent, sans aucune réflexion sur les modalités de financement de leur prédication et qui n'auraient rien eu à faire. Je pense que c'est assez loin de la réalité, évidemment avec un tableau qu'on peut toujours nuancer parce que les sources, comme je vous le dis, elles sont. Et puis sur un certain nombre d'autres questions, les sources me semblent donner des indications très intéressantes. Alors dans le livre, je développe notamment une réflexion sur ce que j'appelle la mise à disposition des biens de la communauté de Jérusalem, où effectivement l'auteur des Actes nous dit que les premiers disciples mettaient en commun et puis vendaient une partie de leurs biens pour nourrir les pauvres. Alors bon, c'est un passage compliqué, l'analyse prend longtemps, mais pour faire simple, la conclusion de ma réflexion, c'est de dire attention, ces textes-là ne décrivent pas un modèle extrêmement simple qui serait celui de la vente totale des biens de tous les disciples pour donner aux pauvres, mais un système qui me semble se situer entre qui remet en question la propriété privée sans pour autant fonctionner sur un abandon total des biens des disciples à l'entrée dans la communauté. L'idée qui me semble sortir de ces textes, évidemment il faudrait creuser l'analyse, c'est que les disciples pouvaient continuer, tous les membres de la communauté pouvaient continuer à disposer des biens qu'ils avaient personnellement, mais la vocation prioritaire de ces biens était de servir la communauté si le besoin, et le terme de besoin est fondamental, si les pauvres en avaient besoin et si c'était nécessaire pour nourrir la communauté. Ce qui est assez différent, il fallait tout abandonner, tout vendre systématiquement. Voyez, et c'est vrai que l'exégèse a un petit peu balancé entre ces deux extrêmes, soit de dire non, mais c'est pas du tout un système de solidarité très radical. La preuve, Ananias et Saphira, Pierre leur dit, vous auriez pu ne pas tout vendre. Et donc, en fin de compte, c'était simplement des dons un peu volontaires, ce qui me semble être très loin de ce que décrit le texte. Et d'un autre côté, c'est pas non plus une sorte d'expropriation systématique qui serait décrite dans le texte et qui serait, alors souvent c'est ainsi quand l'exégèse l'a lu comme ça, une sorte d'idéalisation de la première communauté qui soit c'était vrai, mais évidemment ça n'a duré que quelques années, ça n'a pas continué, soit c'était simplement une sorte de construction apologétique pour mettre en valeur la première communauté de Jérusalem. La réalité me semble se situer entre les deux, c'est-à-dire que oui, c'est pas une expropriation systématique, un système absolument de remise en question totale de la propriété privée, mais c'est pas non plus un système dans lequel on a une propriété privée qui reste tout à fait active et où on a simplement de temps en temps des dons volontaires, mais quelque chose qui est entre les deux, comme j'expliquais précédemment. Et une chose qui, et c'est là aussi un point dans l'historiographie, plutôt sur les 2e et 3e siècles, en particulier pour le 2e siècle, qui à mon avis a eu une postérité. Souvent, on fait de ce modèle de solidarité matérielle quelque chose qu'on le considère comme idéalisé ou pas, qui concerne uniquement la première communauté de Jérusalem. Textes patristiques qui vont de la fin du 1er siècle, de la Didaquée, ou jusqu'à au moins la fin du 2e siècle, y compris certaines apologies, et même jusqu'à Tertullien, on trouve encore des descriptions de la solidarité matérielle qui correspondent précisément à la logique que j'ai retrouvée dans les Actes, et à cette logique, non pas en tant qu'elle serait simplifiée de façon très, très caricaturale, mais au contraire dans sa subtilité. Ce qui me semble être un argument aussi pour y voir une certaine perpétuation de ce modèle. Mais un modèle, évidemment, qui, du fait des modalités sociales et économiques des communautés, au 2e, 3e siècle, à leur croissance, sachant que dans les sources, on voit bien que la solidarité matérielle des communautés dans les sources patristiques du 2e et début du 3e siècle était quand même largement, lorsqu'elle est dirigée vers l'intérieur de la communauté, eh bien, on voit que avec la croissance des moyens disponibles à la communauté, avec de plus en plus de gens venant quand même de classes aisées, et certes un certain nombre de pauvres de gens qui avaient des besoins matériels à nourrir dans les communautés, mais de moins en moins par rapport aux richesses disponibles dans la communauté, il est vrai que l'exigence que je décrivais et qu'on retrouve dans le texte des Actes pour les toutes premières communautés chrétiennes qui étaient à très grande majorité composées de personnes pauvres, eh bien ce modèle a eu beaucoup moins, était moins radical et avait beaucoup moins de conséquences sur la pratique de la propriété dans les communautés de la fin du 2e siècle, qui avaient beaucoup plus de moyens à disposition par rapport à ce qu'elles avaient besoin de faire comme dépenses de solidarité, mais à mon avis, elles ont quand même perduré. Et c'est que dans les sources du milieu du 3e siècle qu'on voit vraiment les choses se changer sur ce plan. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je trouve très, très important à travailler, si vous voulez, sur ces communautés. J'ai aussi pas mal travaillé dans les livres sur Paul et sur les communautés pauliniennes. Alors il y a pas mal de sujets sur Paul. Il me semble intéressant de voir qu'il y a une certaine cohérence là aussi des modalités de financement de la mission de Paul, même s'il y a des textes qui peuvent paraître contradictoires. Là, je ne peux pas rentrer dans le détail ici, mais il faut vous éventuellement verrez dans le livre si vous jetez un œil qu'il y avait aussi chez Paul une vraie réflexion sur les modalités de financement de sa prédication et une certaine efficacité vraisemblablement du modèle. Et aussi une originalité probablement par rapport à d'autres apôtres de son temps. J'ai réfléchi aussi sur la collecte, la fameuse collecte que Paul fait dans les cités, notamment de l'Orient hellénisé, de l'Empire romain, et qui me semble un des textes fondateurs de ça, c'est Galates 2:10, hein, c'est le moment où il fallait se souvenir des pauvres. Et il me semble que ce texte évoque effectivement la collecte. Et pour aller rapidement, la conclusion que j'ai sur ce passage, c'est de dire, voilà, cette collecte a été pensée par les apôtres collectivement, portée par Paul, probablement en particulier dans les communautés dans lesquelles il évangélisait un nombre assez important de gens issus de la société polythéiste et de culture gréco-romaine, qui avait un double intérêt de montrer d'abord de créer une sorte de didactique de la solidarité matérielle dans des communautés qui étaient peu habituées peut-être à des structures de solidarité matérielle, ce qui n'est quand même pas ce qui était dominant dans le monde romain, on peut le dire, alors que éventuellement dans le judaïsme on trouve beaucoup plus de choses sur ce plan-là. Et puis évidemment de montrer l'efficacité de cette prédication aux apôtres de Jérusalem qui pouvaient éventuellement être dubitatifs quant à l'efficacité de ce type de prédication, notamment de solidarité envers les pauvres dans les cités dans lesquelles Paul développait sa prédication. Et je pense que voilà, c'était un peu aussi le sens de cette collecte. Le texte, le livre aborde un certain nombre d'autres questions, notamment la question de la rémunération des acteurs religieux et notamment locaux dans les communautés. Et il me semble, alors c'est vrai que les textes sont peu nombreux, mais qu'on peut en trouver des racines déjà au 1er siècle, même si évidemment ça ne va pas forcément de pair avec l'idée d'une professionnalisation. Acteurs, c'est deux choses différentes. Il me semble qu'on a, là, bon, bien sûr, je rentre plus en détail dans le livre, des traces de rémunération pour compensation d'une activité religieuse importante dans la communauté, de gens qui, du reste, possiblement dans ces communautés des premiers temps, étaient assez souvent issus de milieux qui n'avaient pas énormément de moyens. Vers une rémunération dont on voit qu'elle évolue au IIIe siècle dans une logique beaucoup plus classiquement, qu'on retrouve beaucoup plus classiquement dans le monde romain, c'est-à-dire une logique assez hiérarchisée, où il y a quand même des rémunérations honorifiques et où on a une sorte d'aristocratisation un peu du clergé, dans une certaine mesure, sur ce plan. Et là, peut-être, on rejoint plus dans les communautés chrétiennes un certain nombre de structures classiques du monde romain qui les entourent. Et je crois que sur ce plan-là, de la même manière que sur le mode de financement des communautés, les deux premiers siècles montrent des communautés chrétiennes qui sont plus distinctes des cadres culturels de la société romaine dans lesquels ils se trouvent, que ce soit dans leur distanciation avec notamment des logiques de patronage ou que ce soit par ces formes de rémunération. Bon, j'ai fait un petit peu le tour de ces différentes conclusions. Je pense que je vais pas aller trop plus loin pour pas prendre trop de temps.
Merci beaucoup. Merci de cet aperçu de vos travaux qui sont riches et qui, je peux dire, nous ont beaucoup donné, nous donnent beaucoup à réfléchir. Je retiens quelques points. Je tente une synthèse en direct de ce que vous avez dit. Et comme ça, si j'ai mal compris un des points, je compte sur vous pour opérer la correction en direct. D'abord, je comprends que la mission de Jésus a été financée par une caisse commune des disciples, très probablement, et que donc il y avait une forme de dépouillement individuel, mais quand même un financement commun. Je retiens ensuite que la communauté de Jérusalem, telle qu'elle est décrite par l'acte, comme partageant tous les biens, eh bien, ce n'est pas seulement apologétique, ce n'est pas seulement pour faire joli, mais il y a un véritable fondement historique en sachant qu'il n'y a pas de négation de la propriété privée, mais une forme de mise à disposition des biens en fonction des besoins des pauvres.
Voilà, si une sorte d'entre-deux, quoi, on va dire.
Une sorte d'entre-deux.
On ne peut pas dire qu'on ait une propriété privée au sens strict du terme, puisque bah, à partir du moment où les biens dont on dispose ont pour priorité de servir la communauté, c'est quand même différent, mais ce n'est pas non plus une expropriation systématique.
Voilà. Merci beaucoup. Alors, j'ai retenu que ce modèle avait eu une fécondité dans les différentes communautés chrétiennes du bassin méditerranéen, que ça avait contribué aussi à distinguer les communautés chrétiennes des cadres culturels environnants. Mais vous dites aussi que ce modèle s'est un peu perdu avec la massification en fait, des communautés où il y a plus de riches et moins de pauvres, au moins en proportion. Et du coup, le rapport à l'argent, à la richesse, se fait un peu autrement. Et puis enfin, vous avez parlé d'un épisode assez célèbre du Nouveau Testament, la collecte de Paul en faveur des chrétiens de Jérusalem qui se retrouvent dans le besoin, en disant que ce partage des biens entre communautés ecclésiales avait été finalement une preuve de l'efficacité de la prédication de Paul. Le signe que l'évangile avait bien été prêché, c'est qu'il y avait un partage des biens à destination de cette communauté. Merci beaucoup pour ces différents points. Alors à présent, je passe la parole à Christophe Pichon. Christophe, tu es professeur d'exégèse du Nouveau Testament aux facultés Loyola Paris. Et parmi un certain nombre d'activités, il t'arrive assez régulièrement de travailler sur la manière dont on peut mettre en relation, disons, une exégèse scientifique, et puis la manière dont des personnes qui connaissent la précarité lisent les écrits bibliques. Donc nous te laissons réagir à cela. Je signale qu'on trouve parmi tes ouvrages un très bel ouvrage sur le pain dans la Bible.
Merci François, bonsoir à tous et toutes. Votre ouvrage m'a beaucoup intéressé, car il s'attarde sur un aspect qui est peu travaillé, la vie économique de Jésus et de son groupe et des générations qui le suivront. Vous n'ignorez pas que les textes évangéliques peuvent être lus pour justifier le communisme ou le capitalisme, c'est à la page 55, vous le soulignez en fait. Et en conclusion d'ailleurs, vous montrez l'implication de questionner les premiers chrétiens avaient-ils des perspectives de transformation sociale qui seraient reflétées par leurs pratiques. Une question vive pour aujourd'hui, ce travail d'historien peut donc avoir des effets pour la réflexion éthique contemporaine. Votre propos est celui d'un historien qui travaille à partir de sources. Vous rendez compte des deux critères, contextualisation et comparaison, dans le livre « Tout en commun » auquel vous renvoyez à la page 99. Et moi, j'y renvoie aussi parce que ça m'a beaucoup aidé pour découvrir une manière historienne de travailler les textes évangéliques. Vraiment, je dis ça notamment aux étudiants. Votre travail est de fait dépendant des sources. Et plusieurs fois, vous soulignez la fragilité de la démarche du fait d'avoir une seule source ou des textes apparentés. Vous dites aussi que ce que vous cherchez, à partir de récits pluriels, vous cherchez ce que vous qualifiez soit de cohérence, soit de ce qui est logique. Vous qualifiez plusieurs fois vos conclusions de vraisemblables ou de très plausibles. Autrement dit, vous êtes très prudent. Et c'est édifiant pour moi. Je retiens tout particulièrement deux points qui m'ont particulièrement marqué quant aux conclusions. La première, c'est la continuité entre la pratique de Jésus. La continuité entre la pratique de Jésus et celle des disciples des deux et troisième générations. Un groupe organisé autour de Jésus et par lui, soutenu par des bienfaitrices et une caisse commune, pour les besoins de la mission, avec un souci pour les pauvres, et le reflet et la continuité de cette pratique dans la première communauté à Jérusalem. J'ai trouvé ça très intéressant, cette continuité. Et puis la deuxième chose qui m'a vraiment marqué, c'est l'originalité du modèle de la mise à disposition des biens. Vous le comparez avec ce que font les Esséniens, ce qu'on comprend dans le monde gréco-romain habitué à l'évergétisme, et puis une des choses que vous dites à la page 73, particulièrement atypique, est l'aide apportée spécifiquement aux pauvres dans une société polythéiste grecque et romaine qui n'y était pas habituée. Et cette manière de s'organiser est, dites-vous, une vision subversive de la propriété privée qui dura pendant deux siècles. Elle est héritée, je vous cite toujours, d'un système de solidarité matérielle exigeant mis en place par Jésus. Donc deux points, cette continuité et ce côté un peu original ou subversif. Décidément. Là. Est-ce que ça, c'est mieux ? Je ne suis pas sûr. Voilà. Pour ce qui concerne les évangiles et les actes, sur lesquels je vais m'attarder ce soir, il y a au moins deux plans dans la recherche. Il y a la vie de Jésus de Nazareth et de ses disciples, d'une part. Et puis, il y a ce qui est raconté par les auteurs des évangiles qui considéraient la vie économique de Jésus et de ses disciples en fonction de leur temps. Donc, il y a un peu toujours deux étages, en fait. Alors, je vais faire quatre remarques qui ont trait au travail de l'historien que je découvre avec vous sur le texte évangélique. La première remarque, c'est que, je compare avec ce que je fais, en fait, le travail de l'historien et du bibliste théologien est sur un texte ouvert aux interprétations. Nous avons tous les deux en commun à d'abord à traduire. Au plus proche du texte, écrivez-vous. Et je vais prendre l'exemple de la scène qui suit l'appel de Lévi par Jésus. Vous vous souvenez de cet appel, Jésus appelle Lévi et puis après ils vont dans une maison. Et la question c'est, oui mais laquelle ? Celui qui est attablé dans la maison de lui, Matthieu 9,9, littéralement. Du coup, on peut comprendre deux choses. Soit c'est Lévi qui invite chez lui Jésus, soit c'est Jésus qui invite chez lui Lévi. Le texte permet les deux lectures. En historien, cela questionne le fait que Jésus ait pu avoir un chez lui, concrètement une maison, voire sa maison. Pour le bibliste théologien, cela questionne aussi la manière dont Jésus rejoint Lévi, qu'il vient d'appeler. Qui va chez l'autre ? La lecture habituelle est que Jésus va chez Lévi, et vous choisissez l'autre option permise par le texte. J'aime bien ces passages incertains dans la Bible où le lecteur est mis en position de choisir, car le choix révèle ce que le lecteur porte en lui. Le texte est ouvert. Et toi, comment lis-tu ? Dit Jésus dans les évangiles. Si le texte est ouvert, ce peut être intentionnel ou non de la part de Matthieu, mais dans tous les cas, un choix est à faire et je me suis trouvé en familiarité avec vous dans des choix à faire. C'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est que l'historien que vous êtes, aide le bibliste théologien que j'essaie d'être à lire autrement. J'en reviens à cette fameuse scène du don des pains et à votre démonstration qui pour moi est très convaincante. Les disciples se demandent s'il faut acheter du pain pour 200 deniers. Disposait-il de 200 deniers ? Est-ce que c'est quand même pas trop ? On y lit la plupart du temps, comme vous l'avez rappelé, une exagération, voire de l'ironie. Or, si effectivement les disciples disposent d'une caisse contenant 200 deniers et vous montrez que c'est plausible, peut-être même probable, y compris pour venir en aide aux pauvres, l'enjeu du récit est différent. S'ils peuvent effectivement acheter pour 200 deniers de pain, mais se contentent finalement de prendre ce qu'ils ont ici et maintenant, 5 pains et 2 poissons, quel renouvellement de la compréhension théologique. Vous dites que le sens théologique est consolidé, page 44, ben là, vous n'êtes pas assez prudent. Moi, je trouve que ça permet de changer la lecture, et je propose une manière de le lire grâce à vous. Car ces disciples qui ont la capacité d'évaluer le besoin d'argent en voyant la foule, ah, il va falloir 200 deniers, et qui disposent d'une telle somme dans leur caisse commune, doivent accepter de se défaire des 5 pains et 2 poissons qui sont ici, dont ils disposent déjà pour eux. Avez-vous ? Questionne Jésus. Ainsi, ce sont leurs propres pains, plutôt que l'argent en commun, qu'ils sont incités à mettre à disposition. Ils pensaient pouvoir remédier aux besoins grâce à l'argent de la caisse commune et se charger eux-mêmes de l'achat. ils apprendront à laisser leur propre pain qui leur reste pour recevoir avec la foule les pains des mains de Jésus. Voilà un cas où le point de vue historien invite à relire théologiquement autrement un texte, et merci pour ça. Troisième remarque. La dimension littéraire des textes et leur incidence sur l'histoire. Chaque évangile est une mise en récit spécifique. On met en récit différemment, dans chaque évangile, la vie économique de Jésus et de ses disciples. Et chaque narrateur fait des choix. Ma question, c'est: y a-t-il un lien entre cette manière de raconter et la situation historique pour ceux qui entendent le récit? Je vais prendre un exemple, c'est « Tout quitter en Marc, est-ce le plus important ?» J'intitule ça comme ça. Les disciples de Jésus devaient-ils tout quitter pour suivre Jésus? Je ne sais pas comment vous répondriez à ça, comme ça, spontanément. En historien, sans doute, comme vous le suggérez, faut-il distinguer des manières d'être disciple? Et j'ai trouvé une connivence entre ce que vous écriviez et ce que Daniel Marguerat présente quand il dit qu'il y avait les 12 disciples, les autres disciples et les sympathisants avec un degré d'exigence différencié, dit-il. Un peu à la manière des Esséniens, on n'était pas Esséniens de la même manière. Il y aurait donc de la place pour des manières d'être disciples, itinérants ou non. Certains quittent leur famille, mais Jésus appelle aussi à ne pas divorcer quand même. Pourtant, le récit insiste dans Marc, et Pierre le dit, « J'ai tout laissé avec les autres. Nous, nous avons tout laissé. » Alors j'essaie de lire attentivement le récit de Marc, et voilà ce que je lis, moi. Peut-être je me trompe. Au début de l'évangile, Marc chapitre 1, verset 17, je découvre que Simon et André laissent leur filet. Et puis ils partent, et à la fin de l'évangile, Pierre prend la parole et rappelle à Jésus ce que le narrateur a raconté tout au début. Voici que nous, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. J'entends comme un écart. Jésus lui répond, en vérité, je vous le dis, il n'est personne qui a laissé une maison, ou des frères, ou des sœurs, ou une mère, ou un père, ou des enfants, ou des champs à cause de moi, qui ne reçoivent de nombreuses fois le centuple maintenant en ce temps-ci, des maisons et des frères et des sœurs, et ainsi de suite, et des mères et des enfants. D'une manière narrative, si je lis le récit, la réponse de Jésus incite Pierre à lire autrement ce qu'il a laissé et ce qui peut être laissé. N'est-il pas toujours avec son frère André ? A-t-il laissé son frère ? N'a-t-il pas un temps été dans sa maison ? Et puis finalement, n'a-t-il pas laissé au départ que ses filets ? Et Pierre ne mentionne rien de ce qu'il a reçu, déjà. Il est focalisé sur ce qu'il a laissé. Or, c'est vers ce qui est reçu qu'oriente la réponse de Jésus. Et les dons à recevoir au pluriel sont multiples. Des maisons, des frères et des sœurs et des mères. Dès maintenant. J'aime bien ces récits qui nous obligent à bien lire. Il me semble que narrativement, le récit invite moins à centrer l'attention sur ce qui a été laissé que ce qui a été reçu pour avoir laissé. L'important, c'est moins ce qu'on a laissé que ce qu'on reçoit parce qu'on a laissé. Ça, c'est l'analyse narrative qui me fait dire ça. Et j'en viens à l'histoire. Faudrait-il comprendre, à travers le portrait dynamique de Pierre, que l'évangile de Marc est composé de telle manière qu'il viendrait corriger une mécompréhension du tout laissé. Autrement dit, Marc s'adresserait à sa communauté. Vous voyez bien que Pierre lui-même n'a pas tout laissé, et surtout qu'il oublie qu'il s'agit moins de laisser que de recevoir. Est-ce que ça peut avoir de l'intérêt pour l'historien ? quatrième et dernière remarque. J'ai l'impression, après vous avoir lu, que la dimension historique, c'est du social, du culturel et de l'anthropologique. Et trois à la fois. Je pars de cette question. Les disciples et Jésus lui-même étaient-ils pauvres? Vous répondez de manière convaincante qu'ils étaient dans une économie de subsistance, mais qu'ils n'étaient pas très pauvres. Il n'est pas possible de décrire longuement dans ce livre-là, qui nous réunit, la stratification sociale dans l'Empire gréco-romain, mais je renvoie au tableau très complet dans Tout est en commun. Tout en commun. Et ça me fait penser à deux choses. La différence entre la représentation de la pauvreté aux abords de l'ère chrétienne et le statut économique. En milieu juif, on connaît la triade veuve, orphelin et étranger de la Torah. Jésus et les évangélistes la connaissent par cœur. On sait dire, selon la Torah, un pauvre sait. Si Jésus ne vient pas d'un milieu social de très pauvre, comme vous le rappelez, il termine sa vie emprisonné, condamné à mort et crucifié. Être pauvre que de subir cela, qui ferait dire à Paul que Jésus s'est fait pauvre. Si on envisage la pauvreté dans sa dimension sociale, on doit y intégrer aussi la culture mondaine de l'honneur et de la honte. L'emprisonné serait, comme le démuni, honteux. En ce sens, quand on voit Jésus se compromettre avec des lépreux ou des possédés, est-ce que ça aussi c'est une manière d'accepter de se faire pauvre sans être d'une origine économique pauvre? Parce que se mettre du côté de ceux dont on a honte ou qui font honte? Est-ce qu'on peut dire que, socialement, Jésus est devenu pauvre? Deuxième remarque. La perception de la pauvreté dans une société où la grande majorité de la population vit de subsistance, ça m'a beaucoup frappé. Qu'est-ce que c'est être pauvre dans l'Empire gréco-romain? Je vous partage un souvenir personnel. Celui d'un séjour il y a 2 ans dans un pays où c'était le cas, où il y avait une majorité de très très pauvres. Ça me renvoie à une image, celle d'une personne en guenille et en fauteuil, mendiant, au pied d'un hôtel très luxueux. Une scène très fréquente dans ce pays, dans ces villes où j'étais, la pauvreté était criante dans la rue. Contraste saisissant, qui n'est pas sans rappeler la parabole du riche et de Lazare chez Luc. J'ai alors pensé à ce livre de l'écrivain congolais contemporain Kossi Efoui, qui évoque son pays d'origine dans son livre Une magie ordinaire en 2023. Et voilà ce qu'il dit. Et nous avions du mal à croire, nous qui nous débattions dans la société chez les en bas des en bas, selon une catégorisation qui comprend les en haut des en haut, les en bas des en haut, les en haut des en bas et les en bas des en bas. Nous, les en bas des en bas, nous qui pratiquions jour après jour cette magie ni noire ni blanche, une magie ordinaire qui consiste à multiplier 0 par 0 pour avoir 1, il nous était difficile de croire que le grand-père avait compté parmi les en haut des en haut. Alors je retiens ces catégories parce que ça me fait penser à la fois à votre stratification et à la fois à l'évangile de Luc. Luc, quand il fait le portrait des riches et des pauvres, il prend des en haut des en haut, et quand il prend le portrait des riches, les en haut des en haut, et quand il prend le portrait des pauvres, il prend les en bas des en bas. La question m'interroge sur son temps. Luc, particulièrement sensible à la question de la richesse, vit-il dans une société qui ressemble au pays où je suis allé, où les disparités économiques sont criantes? Si je me pose cette question, c'est pour savoir si les pauvres y sont cachés dans les baraquements ou présents massivement dans les rues. C'est important pour envisager les choix des rédacteurs évangéliques et mesurer pourquoi ces textes ont un tel impact pour les personnes qui vivent la grande précarité. Et je termine pour parler de la dimension anthropologique des textes. Vous la soulignez à la page 67. Vous utilisez le mot en évoquant la mise à disposition des biens dans la communauté. Elle reflète cette mise à disposition des biens, le fait, je cite, que des êtres humains collectivement organisés aient pu observer dans la durée un système exigeant de solidarité matérielle. C'est un point que je trouve encore plus intéressant. Savoir comment les textes bibliques ne se réfèrent pas seulement à l'histoire, c'est-à-dire à des faits, ou Jésus de Nazareth de son temps, ni seulement à une culture, qu'est-ce que c'est être pauvre dans la société gréco-romaine, mais aussi à l'expérience humaine commune, ce qu'on pourrait appeler l'anthropologie. C'est quasi universel, par exemple manger, boire, dormir, avoir un toit. Je garde ce dernier exemple pour illustrer mon propos. Vous insistez beaucoup sur la maison de Jésus. Vous dites que Jésus résidait dans une maison à Capharnaüm. Il avait une maison. Elle était sa maison, écrivez-vous. Elle devient la propriété collective de la communauté une fois la prédication commencée. Ça, c'est la page 33. Pour moi, on sait au niveau historique. Peut-être que je me trompe. Après, vous intervenez, vous parlez. Vous dites qu'il avait une résidence légale. C'est intéressant parce que ça renvoie à ce que c'est une résidence légale, la dimension culturelle plus exactement, me semble-t-il. Et puis après, vous dites qu'il a élu domicile. Et je réfléchissais et je me disais, avoir une maison, c'est pas la même chose qu'avoir sa maison. C'est encore autre chose que d'habiter chez quelqu'un, surtout s'il habite chez Pierre. Et c'est aussi une expérience que de revenir à la maison qu'on a quittée après une mission. Autrement dit, derrière l'expérience historique, la dimension culturelle, est-ce que accéder à cette réflexion anthropologique de Jésus dans sa maison, son expérience d'être dans une maison ou de ne pas en avoir, est-ce que ça, c'est aussi important pour l'historien pour penser son discours sur la richesse? Et je m'arrêterai là.
Merci beaucoup Christophe, et je précise que donc après que Michel et moi aurons dit aussi quelques mots, on vous laissera à nouveau la parole, Jonathan Cornillon, pour que vous puissiez et pourquoi pas commencer à répondre aux nombreuses questions que l'exégète pose à l'historien. Merci en tout cas pour ce dialogue entre les deux disciplines. Alors, nous étions à l'époque biblique, elle-même à l'époque du Nouveau Testament avec toi Christophe. Nous avançons un tout petit peu dans l'histoire pour aller vers l'époque des Pères de l'Église avec un grand spécialiste, Michel Fédoux. Michel, tu enseignes ici la théologie patristique et dogmatique. Ton domaine de spécialité, donc, c'est les Pères de l'Église, auxquels tu as consacré de nombreux ouvrages. Je nomme simplement La Voix du Christ, qui fait école. Et puis, tu es aussi quelqu'un de très attentif à la dimension œcuménique du travail théologique. Tu participes à diverses instances œcuméniques. Et parmi tes ouvrages, j'en nomme un simplement parce qu'il est disponible dans cette salle. C'est un récent ouvrage très pédagogique qui s'appelle « La compassion de Dieu ». Je te laisse la parole.
Merci beaucoup François et merci surtout à Jonathan Cornillon pour ce beau livre qui, je trouve, éclaire considérablement la manière dont Jésus et les premiers chrétiens considéraient l'argent et plus largement la richesse. Je dois dire que j'ai beaucoup goûté les belles pages sur la maison de Jésus, on vient d'en parler un instant, et surtout l'ensemble des développements sur le rapport au bien et sur le rapport à la richesse dans un certain nombre de textes du Nouveau Testament. Alors évidemment, comme patrologue, je me suis particulièrement intéressé aux trois derniers chapitres qui dépassent la période des écrits du Nouveau Testament et qui vont jusqu'au IIIe siècle, au début du IIIe siècle, Tertullien en gros. Je résume brièvement les principales conclusions de ces chapitres. Fondamentalement, les communautés chrétiennes des IIe et IIIe siècles reprennent le modèle de la première communauté de Jérusalem. Pas de propriété privée, même si l'on peut disposer des biens. Et les textes témoignent également de l'importance qui est donnée à la pratique de l'aumône, de la part d'ailleurs de tous les membres de la communauté, pas seulement des plus aisés, c'est un point sur lequel vous insistez, la différence avec l'évergétisme. Mais pour les deux premiers siècles au moins, cette pratique était essentiellement orientée vers les membres de la communauté. L'aumône en direction des membres de la communauté, non pas vers les pauvres en général. Il y avait en tout cas une véritable organisation de la solidarité communautaire, pour reprendre une expression que vous employez. Donc, le modèle hérité de la première communauté de Jérusalem se maintient globalement aux deux premiers siècles de l'histoire de l'Église. Le modèle d'une propriété commune qui donne la priorité aux besoins communautaires, mais qui en même temps permet aux membres de la communauté de disposer de leurs biens et de gagner de l'argent, pourvu que ce soit une aide à la communauté. Alors, il y a évidemment deux écrits, le pasteur d'Hermas et l'écrit « Quel riche sera sauvé » de Clément d'Alexandrie, qui, à première vue, semblent aller dans une autre direction, peut-être surtout pour le second. Mais en réalité, vous montrez de façon très convaincante que Hermas, dans son écrit du IIe siècle, ne parle de la richesse que pour inviter en fait les riches à partager avec les pauvres. Quant à Clément d'Alexandrie, vers la fin du IIe siècle, il est vrai qu'on l'a souvent présenté comme celui qui répond en quelque sorte à l'inquiétude des riches d'Alexandrie. Quel riche sera sauvé? C'est-à-dire le titre de l'écrit dont vous nous parlez dans cet ouvrage. Mais vous montrez que, en fait, Clément d'Alexandrie lui-même critique l'accumulation des richesses. Certes, il n'interdit pas de gagner de l'argent, mais il souligne qu'il faut alors en faire un usage juste. C'est Dieu qui est propriétaire des biens, voilà l'argument fondamental, l'argument théologique. C'est Dieu qui est propriétaire des biens. Et Clément d'Alexandrie ne défend donc ni la richesse ni la propriété privée. Il s'avère donc, au total, effectivement, que le modèle du christianisme originel s'est, pour l'essentiel, maintenu jusqu'à cette époque, jusqu'au début du IIIe siècle, peut-être même jusque vers le milieu du IIIe siècle. Vous évoquez aussi la question de la rémunération des ministres locaux, qui est attestée au IIe et IIIe siècle, mais vous montrez que ce n'est sans doute pas une nouveauté, elle a dû exister dès le Ier siècle. Je relève aussi un dernier point. Dans un chapitre, vous parlez de la solidarité face à la mort. Je trouvais ce chapitre très très original. L'inhumation des pauvres de la communauté est mise par les chrétiens sur le même plan que l'aide matérielle. Les chrétiens ont même construit des ensembles funéraires communs dès le début du IIIe siècle. Par conséquent, il ressort de votre livre que les deux siècles suivant l'époque du Nouveau Testament, un siècle et demi ou deux siècles, sont fondamentalement dans la ligne de ce qui ressortait des Actes des Apôtres et des lettres pauliniennes. Et je dois dire que je suis très convaincu par votre analyse, cela me semble extrêmement juste. Alors, puisqu'il m'a été proposé de réagir plus à distance, je voudrais demander ce qu'il en est advenu, à partir du IIIe siècle, des pratiques et des principes fondamentaux qui ressortent du Nouveau Testament et des deux siècles qui ont suivi. Si l'on considère la période qui va, en gros, de la seconde moitié du IIIe siècle au Ve siècle, pour ne pas aller au-delà, il me semble que l'on est en présence non plus d'un modèle privilégié, mais, si je puis dire, d'une tension entre plusieurs manières d'envisager l'argent et la richesse. Et je voudrais distinguer au moins trois manières, trois modèles, pourrait-on dire, qu'il me paraît tout à fait intéressant de confronter justement à ce qui ressort de votre étude, le modèle dominant tel qu'on le trouve à travers les évangiles, les actes des apôtres et les lettres pauliniennes. Première attitude, je n'ose pas dire premier modèle, première attitude, je la qualifierais comme celle du renoncement pur et simple aux richesses. Renoncement pur et simple aux richesses. Je commence par là, parce que cette attitude se manifeste chronologiquement très tôt dans la période que je considère, et se manifeste dès la seconde moitié du IIIe siècle avec l'essor du monachisme. Il faut avant tout rappeler ici la figure de celui que la tradition a appelé le père des moines, Antoine le Grand, en Égypte. De manière significative, le récit de la vie d'Antoine, tel que le présente son biographe Athanase, ce récit s'ouvre par l'épisode suivant. Antoine entend la parole de Jésus, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et viens, suis-moi, et tu auras un trésor dans les cieux. » Antoine prend la parole à la lettre, il se dépossède de tous ses biens et il se retire dans le désert pour chercher Dieu dans la solitude. On est donc en présence ici d'un choix très radical qui prend à la lettre la parole de Jésus, que je rappelais à l'instant, mais qui, me semble-t-il, n'est pas exactement ou n'est plus exactement dans la ligne des textes des Actes des Apôtres ou des lettres pauliniennes, d'après lesquelles il n'était pas interdit d'user des biens, voire des richesses, pourvu que ce ne fût pas pour les accaparer individuellement. Il est vrai que cette tradition néo-testamentaire que vous exposez dans votre livre est davantage honorée à l'intérieur même du monachisme par la vie cénobitique. Il n'y a pas seulement des anachorètes comme Antoine, il y a aussi les moines qui, à la suite de Pacôme, comme Pacôme, choisissent de vivre ensemble, mettent tout en commun, mais peuvent néanmoins disposer des biens que la communauté leur accorde. Et cela nous rapproche alors du modèle de la communauté primitive de Jérusalem. La position radicale qui est adoptée par Antoine et par les autres anachorètes aura néanmoins toute une postérité dans les générations suivantes. Sans doute cette position est-elle favorisée par la situation du christianisme à partir de la seconde moitié du IIIe siècle, dans la mesure même où les chrétiens deviennent de plus en plus nombreux, dans la mesure surtout où le christianisme, à partir de 313, est toléré au sein de l'Empire, et plus encore reconnu comme religion officielle sous Théodose à la fin du IVe siècle, il existe un danger croissant qu'un certain nombre de chrétiens s'installent en quelque sorte dans cette situation et que, en acquérant de plus en plus de biens, ils cèdent à la tentation d'accaparer ces biens pour leur seul profit, au détriment de la communauté chrétienne et surtout au détriment des pauvres dans cette communauté comme en dehors de celle-ci. Le modèle d'un détachement radical n'a pas seulement attiré d'ailleurs des moines dans les déserts d'Égypte et de Syrie, il a eu également un impact sur les chrétiens d'Occident. L'un des cas les plus impressionnants est sans doute celui de Jérôme dans les dernières décennies du IVe siècle. Jérôme quitte Rome pour mener une vie de très grande austérité à Bethléem. Et nous avons gardé de lui une biographie d'un ermite du nom de Paul. Or, dans cette vie de Paul, avec le tempérament de feu qui est le sien, Jérôme interpelle avec la plus grande vigueur les riches de son temps, je cite, « Je voudrais interroger ceux qui ignorent l'étendue de leur patrimoine, qui revêtent de marbre leur demeure, qui cousent au fil d'un seul collier la valeur de plusieurs domaines. À ce vieillard, Paul l'ermite, à ce vieillard dénué de tout, a-t-il jamais manqué quelque chose? Vous, vous buvez dans un vase précieux, lui satisfaisait la nature dans le creux de ses mains. Vous, vous tissez l'or dans vos tuniques, lui n'a même pas le dernier vêtement de vos esclaves. Paul, l'ermite, gît recouvert de la plus vile poussière, mais il est appelé à ressusciter dans la gloire. Vous, des tombeaux de pierre laborieusement sculptés, vous écrasent, mais vous brûlerez avec vos richesses. » Fin de citation. Voilà, première attitude, renoncement radical, voilà, sous diverses formes. La deuxième attitude, qui me semble ressortir de cette période, surtout 4e, 5e siècle, c'est celle d'un vigoureux appel à la conversion et à la bienfaisance envers les pauvres. La différence avec l'attitude précédente, c'est que cet appel émane de chrétiens, et notamment d'évêques, qui ne renoncent pas à avoir des biens, qui ne renoncent pas à en disposer, et qui n'appellent pas non plus leurs auditeurs à se déposséder de leur richesse. Mais cette attitude n'en est pas moins d'une grande exigence. Elle est particulièrement représentée au IVe siècle par des évêques comme Basile de Césarée en Cappadoce, Jean Chrysostome en Syrie ou Ambroise de Milan en Italie. Ces évêques, il est vrai, ne prônent pas une réforme d'ensemble de la société. Ils ne reprochent pas aux riches d'être riches. Mais ils leur reprochent, avec une très grande vigueur, de garder pour eux seuls des biens dont ils ne sont pas réellement propriétaires, mais seulement gestionnaires. Et ce faisant, les riches offensent Dieu, car, on retrouve ici l'argument de Clément d'Alexandrie, c'est Dieu qui est le vrai propriétaire des biens. Et ces riches offensent en même temps les pauvres parce qu'ils ne respectent pas leur dignité. Des auteurs comme Basile condamnent explicitement l'usure, car précisément à travers l'usure, les riches ne se contentent pas de ce qu'ils possèdent, mais ils amassent pour eux-mêmes sur le dos des pauvres. Certes, Basile, Jean Chrysostome ne préconisent pas l'abandon volontaire des biens, ce qui est le seul fait des chrétiens qui répondent à un appel à la vie monastique, à la manière d'Antoine. Mais ces auteurs, comme Basile, Jean Chrysostome, ces prédicateurs, soulignent par contre que les chrétiens ont un devoir de justice vis-à-vis des pauvres. Ce devoir, c'est l'aumône, ce sont les œuvres de bienfaisance envers les plus démunis. Et ces grands évêques du IVe siècle ne se contentent pas de prêcher ainsi, mais il y a parmi eux vraiment des hommes d'action. Le cas le plus remarquable est sans doute celui de Basile de Césarée, puisque aux portes de sa ville, il fait construire un ensemble hospitalier pour les pauvres, en particulier pour les lépreux, cet hospice qu'on appellera plus tard la Basiliade. Pour soutenir leur combat, ces évêques du IVe siècle font volontiers référence à un épisode biblique, l'épisode de la vigne de Naboth, au premier livre des Rois. Nous rappelons cet épisode. Naboth possédait une vigne. Le roi Achab voulait la lui acheter, mais Naboth avait refusé, car elle était l'héritage de ses pères. Or, Jézabel, la femme d'Achab, avait conçu un stratagème pour faire condamner à mort Naboth par lapidation. Et alors, Achab avait pris possession de la vigne. Mais le prophète Élie était alors intervenu de la part de Dieu, qui lui avait déclaré « Tu diras à Achab, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur ?» Et le prophète Élie avait alors prédit aux deux époux, Achab et Jézabel, qu'ils payeraient leur faute de leur vie et de la ruine de leur dynastie. Eh bien, Ambroise de Milan, par exemple, a écrit tout un traité sur cet épisode biblique. Et on y lit notamment ceci. L'histoire de Naboth est ancienne par l'époque, quotidienne dans les mœurs. Naboth n'est pas le seul pauvre qu'on ait tué. Chaque jour, Naboth est abattu. Chaque jour, un pauvre est mis à mort. Ambroise, en tout cas, quant à lui, considère les pauvres comme des membres à part entière du peuple chrétien. Et c'est un point sur lequel il insiste particulièrement. Il a le souci que tous forment une seule communauté. Comme Cicéron avait été théoricien de la cohésion de la société, Ambroise, lui, veut susciter la cohésion de la communauté chrétienne. Mais alors que Cicéron considérait la propriété privée comme sacro-sainte, alors qu'il pensait que la justice était de préserver les droits de l'individu, pour Ambroise, par contre, la propriété n'existe pas pour être possédée, elle existe pour être partagée. Ambroise n'avait pas pour autant un programme social, mais il s'efforçait de réduire un peu l'injustice présente autant que possible. Et Ambroise écrivait en tout cas ceci, « Ce n'est pas de ton bien que tu distribues aux pauvres, c'est seulement le sien que tu lui rends, car tu es seul à usurper ce qui est donné à tous pour l'usage de tous, la terre appartient à tous et non aux riches. » Fin de citation. Eh bien, il me semble que cette deuxième attitude, qui, comme je viens de le suggérer, elle-même très radicale, elle est pour l'essentiel dans la ligne de ce qui habitait les toutes premières générations chrétiennes. Bien entendu, la situation a changé, car compte tenu de l'expansion du christianisme et de sa reconnaissance croissante dans l'Empire, il y a davantage de chrétiens aisés ou même riches à cette époque. Mais les appels vibrants que leur adressent des évêques comme Basile, Jean Chrysostome ou Ambroise remettent bien au premier plan ce qui ressortait du Nouveau Testament, à savoir l'idée que les biens appartiennent à Dieu et que, même si l'on peut légitimement disposer, on ne doit pas les accaparer pour soi-même, mais avoir le souci de les partager. Peut-être la nouveauté tient-elle surtout, en fait, à cette époque, à l'organisation croissante de la bienfaisance, envers les pauvres, et pas seulement d'ailleurs des pauvres dans la communauté, comme c'était davantage le cas aux origines, mais de tous les pauvres, quels qu'ils soient. La troisième attitude, enfin, que je voudrais évoquer, pourrait être caractérisée comme une attitude d'abord spirituelle, qui passe certes par l'aumône et la bienfaisance, mais qui voit dans celle-ci avant tout le chemin pour obtenir un trésor dans le ciel. Je voudrais l'illustrer par un chrétien originaire d'Aquitaine, Paulin, qui a vécu dans la seconde moitié du IVe siècle et les premières décennies du Ve siècle. Paulin, un homme marié qui était un propriétaire terrien et qui, à un moment de sa vie, après la mort de son fils unique, voulut, avec sa femme, se défaire de ses propriétés. Et après un temps en Espagne, où il fut ordonné prêtre, il vint s'établir en Italie, dans la localité de Nola, à l'est de Naples. Paulin avait été marqué, comme Antoine, par l'appel du Christ au jeune homme riche. Il vendrait tout, il donnerait aux pauvres, il placerait son trésor dans le ciel. Mais Paulin n'avait pas l'intention de fuir le monde, à la manière des moines. Il voulait rester dans le monde. Il y avait près de Nola, en Italie donc, un sanctuaire d'un saint local, Félix. Eh bien, Paulin voulut dépenser son argent pour le culte de ce saint local. Il cherchait avant tout, par là, la faveur de Dieu et de ses saints. Et donc, il transforma le modeste sanctuaire en un grand bâtiment, une basilique. Il voulait construire pour Dieu. Et certes, il était en contact avec les pauvres, avant tout, à travers les pauvres qui venaient en pèlerinage dans ce lieu où l'on vénérait saint Félix, et aussi à travers tous les indigents qui y vivaient en permanence. Dans le sanctuaire de Félix, Paulin et les moines vivaient à l'étage supérieur. Les pauvres s'assemblaient sous les portiques, dans les espaces au niveau du sol. Mais en quelque sorte, dans son esprit, tout le monde était gagnant, parce que d'un côté, les pauvres avaient la subsistance, ils avaient un toit, et en échange, ils priaient pour les riches. Et de leur côté, les riches pouvaient utiliser leur trésor terrestre pour gagner le ciel, tu auras un trésor dans le ciel, en donnant aux pauvres. Pour Paulin, en quelque sorte, la richesse de ce monde pouvait être transformée par un acte pieux d'aumône et de bienfaisance. Il pouvait être transformé ainsi en ce qu'il y a de plus somptueux dans le monde éternel. Et Paulin ouvrit ainsi la voie à un processus qui devait consister, pour les riches, à transférer en quelque sorte leur richesse de la terre au ciel, moyennant l'aumône et la bienfaisance vis-à-vis des pauvres. Paulin pensait être ainsi fidèle à la parole de Jésus. Tu auras un trésor dans le ciel. Tu auras un trésor dans le ciel. Et Paulin pensait aussi avoir surmonté la difficulté que Jésus avait un jour formulée en ces termes. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Mais on voit aussi la limite de cette troisième attitude, de ce troisième modèle, entre guillemets. Il y avait le risque que l'accent ne soit plus mis d'abord sur la dignité des pauvres, mais sur le souci d'obtenir pour soi-même un trésor dans le ciel. Et il y avait aussi le risque que cette perspective spirituelle n'en vienne finalement, dans l'esprit de certains, à cautionner quelque peu la pauvreté, puisque les riches avaient besoin d'aider les pauvres pour avoir un trésor dans le ciel. Je conclus, sans doute n'est-ce ni la première attitude, celle de l'anachorèse radicale, ni la troisième, celle de l'aide aux pauvres comme moyen d'obtenir un trésor dans le ciel, sans doute n'est-ce donc ni la première ni la troisième attitude qui est la plus fidèle au témoignage des toutes premières communautés chrétiennes telles que Jonathan Cornillon les présente dans son livre. Sans doute, la fidélité au témoignage de ces premières communautés chrétiennes ressort-elle avant tout, me semble-t-il, de la deuxième attitude, celle de Basile, de Jean Chrysostome, d'Ambroise de Milan, qui ont su, dans la situation historique de leur temps, rappeler avec vigueur l'enseignement du Nouveau Testament qui invite non pas à ne pas disposer des biens, mais à refuser de les accaparer pour soi-même et à les mettre plutôt au profit de la communauté et à faire preuve de bienfaisance envers les plus démunis. Ces quelques réflexions seraient bien sûr à poursuivre et à approfondir, mais j'espère avoir au moins suggéré que le livre de Jonathan Cornillon n'est pas seulement passionnant par lui-même et en lui-même, mais qui donne aussi des clés de lecture pour interpréter les métamorphoses du rapport à l'argent et au bien dans la seconde moitié de l'Antiquité chrétienne.
Merci beaucoup Michel pour cet éclairage sur les pères de l'Église, les différentes attitudes aussi que manifestent leurs écrits et leurs pratiques. Nous allons faire un saut vertigineux dans le temps, presque 1500 ans en 10 secondes, pour arriver à l'époque que nous connaissons. Je précise simplement que je m'appelle François Audinet et que j'enseigne la théologie pratique dans cette maison. Ma réflexion donc adoptera un cheminement qui est celui de la théologie pratique, dont l'objectif est de chercher comment notre expérience humaine et spirituelle, ecclésiale, comment notre expérience est lieu de révélation et comment cette expérience façonne notre foi au point d'être source de réflexion théologique. Et donc je vais chercher en quoi les pratiques de solidarité des premières communautés chrétiennes que vous décrivez, comment ces pratiques des premières communautés s'avèrent encore suggestives, voire même inspirantes, pour les églises chrétiennes aujourd'hui. Alors je vais procéder en plusieurs étapes. D'abord, je vais identifier quelques expériences actuelles qui structurent la diaconie de nos églises. Voilà de quoi on parle quand on dit solidarité dans les églises aujourd'hui. Ensuite, je vais essayer de voir s'il y a une continuité de fond avec les pratiques anciennes, au-delà d'évidentes disparités. Ensuite encore, je vais essayer de qualifier théologiquement cette continuité en m'appuyant sur les écrits du théologien Yves Congar. Et puis je terminerai en explicitant quelques différences de contexte entre notre époque et celle des premières communautés, parce que des différences de contexte, il y en a, et il se trouve qu'elles sont très instructives. Alors je commence aujourd'hui, et puis aujourd'hui en Europe occidentale, quelles pratiques de solidarité peuvent être identifiées comme structurantes dans les églises chrétiennes? J'en relève trois. La première, massive, la plus massive, c'est l'existence d'institutions de diaconie dans nos églises, organisées. J'appelle diaconie, comme le pape Benoît XVI l'a fait, le service ecclésial organisé de la fraternité. Alors je pense à des réalités associatives comme le Secours catholique, la Société Saint-Vincent-de-Paul, etc., mais aussi à des réalités des églises diocésaines, comme les diaconies diocésaines par exemple. Deuxième réalité, c'est la permanence de pratiques de commensalité, de repas partagés, qui constitue une pratique très ancienne dans les églises, au point qu'elle était initialement indissociable de la célébration eucharistique. Récemment, Laure Blanchon a écrit un bel ouvrage qui présente la permanence de ces pratiques et qui en propose une relecture biblique et une analyse théologique à la lumière de l'approche du royaume de Dieu. Troisième pratique, c'est la pratique des pratiques directement de prière ou spirituelle avec des personnes en précarité, et je dirais en particulier des pratiques de partage biblique avec des personnes en précarité, avec des méthodes appropriées. Et sans doute, on pourrait trouver dans ces pratiques de prière, ou plus profondément encore dans ces pratiques de partage biblique, une forme d'inspiration de la diaconie, mais aussi une manière de valoriser la pensée et la parole des personnes en précarité, ce qui est aussi une tâche de la diaconie. Voilà trois pratiques aujourd'hui, peut-être que vous en auriez mentionné d'autres si on avait mis le micro sous votre nez à vous, mais en tout cas en voilà trois. Il me semble qu'elles ont un point commun, c'est qu'elles renvoient à des fondamentaux de la vie chrétienne. Il se trouve que, comme Benoît XVI l'a rappelé récemment, la diaconie correspond à une des trois missions fondamentales de toute Église, avec la prière et avec le témoignage. La commensalité, par exemple, elle signifie une constitution de la fraternité ecclésiale et elle déploie quelque chose qui est célébré dans la liturgie eucharistique. Quant au partage biblique, il actualise l'accueil et la méditation de la parole de Dieu dont on témoigne. Donc il y a des liens entre ces pratiques de diaconie et ces autres fondamentaux que sont le témoignage et la prière. Pour ce qui est des églises antiques, vos travaux, Jonathan Cornillon, montrent que si la solidarité est vécue essentiellement au sein de la fraternité ecclésiale. Michel Fédoux l'a rappelé, les pratiques des premiers siècles, c'est une aide à l'égard des pauvres de la communauté chrétienne. Eh bien, vous expliquez, en tout cas j'ai cru comprendre cela, c'est parce que la solidarité est étroitement coordonnée aux raisons même d'exister de la communauté chrétienne. Et je vous cite ici dans « Tout en commun ». L'imbrication profonde de ces principes dans la croyance en Jésus ressuscité et dans la perspective du jugement dernier est bien trop grande pour que l'on néglige tout ce qu'une telle organisation économique doit au fondement spirituel du mode de vie chrétien. Le système de solidarité économique mis en place par les chrétiens fut d'emblée ambitieux et conçu comme nécessaire à leur foi. Fin de citation. Il apparaît clairement, donc, dans votre enquête, que le partage des biens s'enracine plus profondément que dans un simple devoir éthique. Il ressortit, un théologien dirait, ou une théologienne dirait, il ressortit au niveau théologal, c'est-à-dire à l'œuvre de l'Esprit-Saint parmi les croyants, plus profondément que la simple prescription d'un devoir. En d'autres termes, on pourrait dire que les pratiques de partage font partie de ce que l'expérience chrétienne ne peut pas ne pas susciter. Dès lors, évidemment, il ne s'agit pas simplement de comparer nos pratiques à nous aux pratiques des églises antiques, mais de repérer avant cela une forme d'intention qui les traverse et qui me semble commune. Ces pratiques tiennent à notre identité. Ces pratiques tiennent à l'identité de la communauté ecclésiale. C'est vrai pour les premières communautés, c'est vrai pour les nôtres. Alors, comment comprendre cette continuité de fond? C'est là que j'en viens à Yves Congar. Pendant et après le Concile Vatican II, ce grand théologien a réfléchi sur les pratiques anciennes de partage des biens. Et il les a interprétées à l'enseigne d'un concept, celui de la sacramentalité de l'Église. Pour le théologien Congar, grand connaisseur de la tradition, parler de la sacramentalité de l'Église, eh bien justement, c'était une manière de resituer la question de la pauvreté au cœur de la théologie. Justement pour dire que le partage des biens n'est pas un simple engagement de bienfaisance, mais il signifie l'être même de l'Église. Je vais définir la sacramentalité. Elle constitue, la sacramentalité, un des accents majeurs de la théologie de l'Église développée par le Concile Vatican II. Il a défini l'Église comme sacrement universel du salut. C'est-à-dire que dans l'Église, la volonté de salut de Dieu est à la fois signifiée et expérimentée. On peut dire ça, la sacramentalité de l'Église, c'est que la volonté de Dieu y est signifiée, dite, mais aussi expérimentée. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, mais ça veut dire qu'il y a ces deux dimensions-là en même temps, et l'une grâce à l'autre. Pour Congar, les pratiques de partage des biens engagent la sacramentalité de l'Église pour une raison qu'il nomme, une raison théologique, c'est le lien entre le péché et la misère. Alors non pas au sens où ceux qui souffriraient de la misère subiraient leur propre péché. Pas du tout. Mais au sens où la pauvreté n'est pas un malheureux hasard. La pauvreté est le fruit du péché humain, ce péché de l'injustice qui conduit à entretenir des rapports de force dans lesquels certains confisquent les biens au détriment des autres. Et donc il y a péché, et c'est un fruit du péché que de voir la misère. Dès lors, dans la mesure où l'Église se veut le sacrement de la réconciliation entre Dieu et l'humanité, dans la mesure où l'Église veut signifier cette réconciliation, mais où elle veut aussi donner de l'expérimenter, dans la mesure où en plus cette Église prétend au Concile Vatican II être le sacrement de l'unité du genre humain, grande ambition, alors cette Église, ces Églises même, pourrait-on dire, ne peuvent ignorer cette empreinte du péché dans l'histoire humaine qu'est la misère ou la pauvreté. Je note au passage que Congar ne parle pas de la place des pauvres de façon théorique, Il s'intéresse bien aux pratiques de partage et de solidarité concrètes. Pour lui, par les pratiques de partage communautaire, l'Église assume la pauvreté comme le Christ a assumé la réalité humaine. En partageant les biens, l'Église assume la pauvreté comme le Christ a assumé l'humanité. Congar rappelle le vieil adage patristique selon lequel ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. C'est-à-dire que le Christ nous sauve en prenant sur lui ce que nous sommes et ce dont nous souffrons. Il nous sauve en assumant ce que nous sommes. De la même manière, donc, dit Congar, l'Église doit assumer la pauvreté, la prendre sur elle, afin d'être réellement le sacrement du salut, dans une humanité où il y a de la misère. Sinon, j'aime bien cette provocation de Congar qui cite le théologien orthodoxe Paul Evdokimov, « Sinon, c'est l'Église qui possède le message de libération, mais ce sont les autres qui libèrent. » Les communautés ecclésiales doivent donc, pour Congar, vivre un mélange de sobriété choisie et d'engagement réel aux côtés des pauvres de ce monde. Congar insiste d'ailleurs pour que, quand on parle de pauvreté dans l'Église, on ne se contente pas de la pauvreté des ordres religieux, qui, en son sens technique, désigne d'abord une renonciation au bien, mais il insiste pour que ça désigne dans l'Église, d'une part, une vraie sobriété, fruit d'un réel appauvrissement volontaire, ce sont ces termes, une sobriété fruit d'un réel appauvrissement volontaire, mais aussi, et c'est frappant que Congar le mentionne, d'une véritable proximité, donc d'une relation concrète, avec les pauvres de ce monde. Alors qu'est-ce que ça nous apporte d'avoir fait un détour par la pensée de ce grand théologien ? Eh bien, je dirais deux choses. D'abord, ça nous permet de ne pas réduire la pratique de la solidarité dans l'Église à la charité individuelle. Ça permet de ne pas réduire la pratique de la solidarité dans l'Église à la charité individuelle. C'est toute l'Église locale, en tant que sujet communautaire, qui est concernée par l'engagement aux côtés des plus précaires et par la pratique effective de la solidarité. Encore une fois, ça ne veut pas dire que partout c'est bien, c'est parfait, c'est magnifique, mais que ça fait partie de ce qui définit une Église. D'autre part, ce détour par la pensée de Congar interdit de limiter le lien entre les premières communautés chrétiennes et nous, interdit de limiter ce lien à la seule pauvreté des ordres religieux. En même temps, et ça me semble important, Congar empêche, la pensée de Congar nous empêche de couper l'existence d'un vœu de pauvreté chez les religieux du souci effectif des pauvres réels. Il nous oblige aussi à relier les deux. Il y a un vœu de pauvreté, il y a des pauvres réels, les deux ne peuvent pas aller l'un sans l'autre. Jusqu'ici, j'ai beaucoup insisté sur la continuité, en fait, entre les communautés antiques et les nôtres, et il est temps de mieux prendre en compte, pour ma dernière partie, de mieux prendre en compte la distance qui est la nôtre avec les premières communautés chrétiennes, une distance qui est évidente. Et de voir aussi quelle incidence cette distance a sur notre question. Et je prends trois pistes pour marquer cette distance. D'abord, notre contexte est celui d'une grande pluralité. Pluralité culturelle, pluralité religieuse, convictionnelle, etc. Alors c'est vrai que les premières communautés chrétiennes, elles ont rencontré une diversité culturelle et religieuse dès qu'elles se sont installées hors de la terre d'Israël, c'est sûr. Elles ont, dans ce contexte pluriel, plutôt cultivé ce qui les singularisait, ce qui les identifiait. On voit ça aussi dans vos travaux. Par exemple, les Actes des Apôtres insistent sur l'admiration que provoque le partage des biens dans la première communauté de Jérusalem. Alors évidemment, nos églises n'ont pas abandonné les éléments qui les singularisent, évidemment. Mais il me semble que nous avons un rapport différent à la pluralité et que, pour la question du partage des biens, ça joue un grand rôle. Aujourd'hui, on pourrait dire que les pratiques de diaconie ecclésiale sont ouvertes à tous. Les pratiques de diaconie ecclésiale ne bénéficient pas, par principe, aux seuls catholiques, quand on est dans l'Église catholique, ou aux seuls chrétiens de notre Église, quand on est dans une autre Église. Alors c'est vrai que nous vivons dans un contexte de plus en plus fracturé, que parfois des voix s'élèvent pour réclamer que les pratiques de diaconie se limitent aux chrétiens, mais je crois qu'on peut dire que globalement, aujourd'hui, la diaconie ecclésiale assume de s'adresser à tous, au nom du souci que Dieu a de toute l'humanité, justement. Au nom du souci que Dieu a de toute l'humanité, et pas de la seule Église. Dès lors, ça fait bouger, cette pratique de la solidarité fait bouger ce qu'est la singularité ecclésiale. Ça veut dire que la singularité ecclésiale, ce n'est plus de veiller sur les seuls membres de la communauté, mais précisément d'assumer un souci universel, celui de Dieu pour l'humanité. Ça nous permet de mesurer un double écart. D'abord, le sens que nos églises donnent à la diaconie a évolué. Pour les premières communautés chrétiennes, on refuse que certains membres de l'Église connaissent le dénuement. Ce n'est pas cohérent avec le fait d'être appelé et de vivre dans l'Église. Mais pour aujourd'hui, pour nos églises, c'est tout aussi essentiel de considérer que toute l'humanité ne devrait pas connaître la misère, et donc d'assumer une préoccupation pour toute personne précarisée, indépendamment de son appartenance religieuse. Un élément, en revanche, qui ne change pas, c'est que tous les membres de l'Église sont invités à concourir à cette solidarité, quel que soit leur degré de richesse. Ce n'est pas seulement les riches qui doivent se préoccuper des pauvres de ce monde. Une autre conséquence, qui me semble très importante, c'est qu'à travers des pratiques de solidarité dans un monde très pluriel, finalement les Églises ouvrent la possibilité à des non-chrétiens de s'associer à leur propre mission ecclésiale. Si c'est vrai que la diaconie fait partie de ce qui singularise les Églises, pourtant il y a de la place dans l'exercice de cette mission pour des non-chrétiens. Pas seulement pour qu'ils en bénéficient, mais aussi pour qu'ils l'exercent au sein même des Églises. On ne peut donc plus jouer à montrer nos pratiques de diaconie pour attester l'excellence des baptisés, mais au contraire, nous sommes dans une situation où nous sommes invités à comprendre notre propre mission en relation avec celle d'autres acteurs engagés sur le plan social. Deuxième chantier différent, après celui de la définition de la spécificité ecclésiale, c'est que dans les pratiques que j'ai mentionnées au début pour aujourd'hui figurent des partages bibliques. Partager la Bible avec des personnes en précarité, ça demande une attention pour entendre leur voix, pour entendre aussi leur sagesse. On peut dire que cette attention a émergé dans la seconde moitié du XXe siècle, notamment autour de Joseph Wresinski, le fondateur du mouvement ATD Quart-Monde. Dès lors, on pourrait dire qu'au partage des biens se superpose la nécessité d'un partage des voix. Aux injustices dans la répartition des biens, aux injustices dans la considération sociale, se suppose l'existence d'injustices épistémiques, d'injustices dans la valeur accordée à la parole. Dès lors, veiller au partage des voix au sein même des Églises devient aussi une manière de lutter contre la misère. Ça me semble assez spécifique à notre époque. On peut dire que l'écoute, la prise de parole est porteuse d'empowerment et entraîne, du coup, de forts enjeux politiques. Un dernier élément de variation entre les premières communautés chrétiennes et les nôtres, c'est qu'à la fin du XXe siècle, nous avons pris conscience qu'il existe des structures de péché. L'expression désigne des structures sociales perverses qui, certes, sont alimentées par des péchés individuels, mais qui sont des structures perverses qui dépassent largement la capacité d'action d'un seul être humain. Alors évidemment, cette conception n'existait pas dans la première théologie chrétienne, même si vous précisez, je vous cite à nouveau, « Il y avait bien dans le message chrétien la perspective de produire d'autres rapports sociaux à définition de produire d'autres structures sociales. » Alors là, il me semble que le curseur a un petit peu bougé avec la découverte théologique, si on veut, des structures de péché. Parce que justement, identifier des structures de péché veut dire qu'on ne veut pas seulement changer les rapports sociaux, mais bien qu'on veut convertir des structures sociales. Dès lors, la diaconie ecclésiale ne vise pas seulement à une multitude de conversions individuelles, mais à des formes de conversion structurelles. Et ça, c'est quand même un changement, me semble-t-il. J'ai terminé mon parcours. Qu'est-ce que ça veut dire de faire ce que je viens d'essayer de faire, c'est-à-dire une lecture actuelle de la vie ecclésiale qui tire profit de travaux historiques sur une époque quand même assez éloignée? J'en tire trois leçons. Première leçon, hier comme aujourd'hui, c'est la sacramentalité de l'Église qui est engagée dans les formes de partage des biens. Autrement dit, que le partage des biens existe, soit effectif, ça détermine le fait que l'Église accomplisse sa propre mission. Ce n'est pas le seul élément qui le détermine, mais ça fait partie de ce qui détermine l'accomplissement ou non de la mission par l'Église. Deuxième leçon, les différences de contexte montrent comment, à travers les enjeux de solidarité, c'est le rapport entre l'intérieur et l'extérieur de l'Église qui se repositionne sans cesse. Le rapport entre ce qui spécifie une Église et son contexte plus vaste. Et ça se repositionne, et la question de la solidarité, du partage, est absolument centrale. Troisième leçon, peut-être que, dans un monde pluriel, le meilleur critère de vérification de la mission ecclésiale, c'est le rapport des chrétiens aux plus pauvres, et ici je veux bien spécifier, aux plus pauvres qui sont à l'intérieur de la communauté et à tous les autres. Merci de votre écoute. Voilà, on a fait part de trois réactions assez diverses, à des époques assez diverses. Donc, Jonathan Cornillon, je vous redonne la parole pour que vous puissiez... Alors, ce sera évidemment impossible de réagir à tout, hein, mais quand même en quelques minutes, avant que la parole circule dans la salle, et puis pour ceux et celles qui nous suivent à distance, que vous puissiez réagir comme vous le voulez.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois pour ces réflexions extrêmement intéressantes. Effectivement, il y a beaucoup trop de choses pour que je puisse répondre à tout, c'est certain. Je vais peut-être... Vous avez parlé d'anthropologie et vous avez parlé de ces modèles, et peut-être qu'il y a une façon de répondre, ou en tout cas d'aller sur des terrains qui peuvent peut-être être un peu communs à vos trois réflexions. Je crois que je voudrais repartir de ma conclusion sur justement la question des chrétiens et de leur perspective de transformation sociale. Et peut-être de ce que vous venez de dire qui est très intéressant sur cette question des structures. Je trouve que ce qui distingue pas mal, enfin se distingue, pas forcément dans leur temps justement, mais la perspective de ces chrétiens, c'est d'être vis-à-vis des institutions dans lesquelles ils vivent assez profondément loyalistes, et dans une logique même de suivre la légalité hein, de l'Empire romain qui les entoure, y compris d'un empire qui éventuellement les réprime. Hein. Et de pas remettre en question des grandes institutions qui éventuellement ont en elles-mêmes un principe structurellement inégalitaire, voire très violemment inégalitaire. C'est vrai de l'esclavage, par exemple, puisque l'Empire romain est un empire esclavagiste. Hein. Et en tant que structure... C'est pas quelque chose qui est remis en question par les premiers textes chrétiens, même s'il y a une sensibilité à la condition de l'esclave. En revanche, ce qui est demandé aux chrétiens, c'est que, en gros, hein, les maîtres aient à l'égard des esclaves une attitude fraternelle, et au fond qu'ils les traitent tout à fait différemment de la façon dont ils sont en général traités dans la société romaine. C'est pour ça que je parle non pas de remise en question des structures, parce qu'effectivement il n'y a pas de perspective qu'aujourd'hui on synthétiserait dans une logique révolutionnaire, c'est-à-dire qui remettrait fondamentalement en cause les structures, mais il y a quand même la volonté d'une transformation sociale par l'idée que le message chrétien peut faire que les gens se comportent vis-à-vis des autres d'une façon tout à fait différente, peu importe les structures dans lesquelles ils vivent. Et c'est en cela que j'y vois une idée de transformation sociale. Alors, si à période contemporaine, et c'est peut-être aussi une évolution intellectuelle qui va de ce que la période contemporaine et tout un tas de pensées plus contemporaines ont été très sensibles au phénomène de structure, et il y a certainement aussi un lien avec ça, je trouve que c'est intéressant de voir ça. Mais dans tous les cas, il me semble qu'il y a vraiment cette perspective de transformation sociale justement à travers la perspective du changement des comportements. Et ce qui rend la chose pas simple, et là je voudrais aussi rebondir sur la question du rapport entre l'individu et la communauté, le fait que cette volonté de transformation des rapports sociaux par la transformation, au fond, des comportements individuels, qu'elle était pensée toujours dans un cadre collectif, lui donne quelque chose de subtil aussi et de particulier. Et je pense que c'est tout le sens, par exemple, de la réflexion de Pierre à Ananias, de dire, mais au fond, t'étais pas obligé de tout vendre, t'étais pas obligé de tout faire porter sur toi. Et y a cette idée à la fois que tout le monde doit participer et que tout le monde doit être fortement exigeant vis-à-vis de lui-même, mais que jamais personne ne doit imaginer que tout repose sur lui justement, et que c'est parce qu'il y a un effort collectif des différents individus que la chose est soutenable, hein. Et c'est donc universel dans sa destination, parce qu'effectivement, même si dans les communautés chrétiennes au départ la logique est d'avoir dans la, dans la solidarité communautaire un objectif de nourrir les pauvres de la communauté, c'est une logique qui est tout simplement réaliste, c'est-à-dire que surtout pour des toutes petites communautés au début, dans un monde où le nombre de pauvres est absolument énorme, dans un contexte où en plus elles sont petites, elles sont réprimées, elles n'ont pas beaucoup de moyens, bon évidemment on peut de toute façon pas tout prendre en charge, bien sûr, mais comme il y a la perspective de l'évangélisation au niveau universel, l'idée c'est si tout le monde accepte le message, ça va fonctionner. C'est cet idéal. Alors évidemment, bon après les 2000 années qui ont suivi, il y a un peu le mur du réel, c'est pas si évident. Mais c'est dans cette perspective qu'il y a quand même une logique aussi assez universelle. Donc à destination et aussi au sein des communautés, tout le monde doit participer dans la perspective que tout le monde et éventuellement à l'échelle terme universelle puisse bénéficier de ces transformations des comportements et donc des rapports sociaux et donc d'un rapport de domination. Donc je trouve que c'est assez intéressant de voir tout ça. Et ce qui était dit aussi sur notamment les discours des évêques du 4e siècle en particulier, on parlait de Basile, d'Ambroise, et je suis assez d'accord avec vous sur cette idée que ce deuxième modèle que vous avez décrit était particulièrement cohérent avec ce qu'on retrouve dans les textes des premiers siècles. Ça, c'est assez vrai. Parce que vous disiez pas de véritable programme social, ben, c'est bien là qu'on retrouve cette idée de pas une remise en question fondamentalement des institutions. Alors, encore une fois, on en pense ce qu'on veut. C'est-à-dire que, de fait, ça a ses limites de pas toucher aux institutions. Et on le voit bien dans le déroulement de l'histoire humaine. Mais avec quand même cette idée de réduire l'injustice et cette idée que, potentiellement, ça peut avoir un fort effet si on est assez nombreux à le faire. Donc je suis assez d'accord avec cette idée que les discours et les pratiques de la deuxième attitude que vous avez mise en évidence sont en assez profonde continuité avec les textes précédents, ça c'est vrai. Et les évolutions contemporaines, ben oui, ça m'a beaucoup intéressé hein, aussi, parce que je trouve qu'il y a là un enrichissement de la pensée, de la pratique aussi qui est intéressant. Je vais peut-être pas trop parler non plus, peut-être laisser aussi... possibilité.
Merci beaucoup pour ces réactions. Alors, la parole est à vous qui êtes dans la salle. La parole est à vous aussi. Vous pouvez écrire sur le chat, vous qui nous suivez par Zoom. Merci de formuler des questions très brèves parce que qu'elles soient dites ou qu'elles soient écrites, il faudra que je la répète dans le micro pour que tout le monde en profite. Merci beaucoup. Donc je résume en disant, est-ce que ce qu'on voit apparaître autour de Jésus, puis dans les premières communautés chrétiennes, ça s'inspire du judaïsme ambiant et ou d'autres cultures environnantes ? Ça va ? Y a-t-il une rupture entre la période de Jésus et puis la période qui suit immédiatement ? Merci beaucoup. D'autres questions ? On peut en prendre deux ou trois en même temps. Donc ça, ce sera une question en particulier pour vous. Peut-être, je ne sais pas si Michel voudra ajouter un mot. Et bon, on va commencer avec ces deux questions-là.
Alors, ce sont des questions intéressantes. Pour ce qui est de la rupture de modèle, alors je dirais que la prédication de Jésus et ses disciples reste quand même très particulière. D'abord parce que c'est minuscule, hein, c'est vraiment très très peu de gens. Et parce qu'elle est... Alors, comme je le dis dans le livre, elle est semi-itinérante, hein, mais elle est pas basée de façon, pour le coup, vraiment sédentaire, comme vont l'être très rapidement les communautés qui sont évangélisées, y compris par Paul, etc. On n'est quand même pas tout à fait sur le même mode de vie, et on est sur une communauté de prédicateurs, et au fond, qui tous ont vraiment choisi de donner entièrement leur vie à la prédication. Or, dès lors qu'on rentre dans des communautés où il y a, bon, effectivement, hein, des gens qui prêchent, des gens qui peut-être ont un rôle religieux, mais où on a inévitablement des gens qui restent dans le monde et puis qui ont un métier, et puis parce que voilà, tout le monde ne peut pas faire juste de la prédication. C'est sûr qu'on est sur, pas forcément sur une rupture en termes de principe, mais sur une modalité d'organisation communautaire qui va forcément s'adapter à cette réalité. On est plus dans la même logique. Ça me paraît important. Après, sur le fait, si vous voulez que... Alors, entendons-nous. Quand je dis que la solidarité communautaire est tournée vers l'intérêt de la communauté, j'entends la solidarité communautaire institutionnalisée. Ça n'empêche pas des chrétiens, et d'ailleurs il y a des textes qui le disent de façon plus générale, de donner à des pauvres, quels qu'ils soient, de leur propre chef. Mais l'idée, c'est quand même, pour ce qui est de la solidarité communautaire, où il y a des collectes, où c'est organisé à l'intérieur de la communauté, pour le coup d'en faire profiter essentiellement la communauté. Et là, je pense qu'il y a effectivement une logique réaliste, encore une fois, parce que sinon, ce serait extrêmement compliqué de réussir à pouvoir tous les besoins. Et puis, c'est quelque chose qui attire. Il y a un texte de Clément d'Alexandrie, je crois que c'est au premier livre des Stromates, qui dit « Il y a des gens qui rejoignent nos communautés, monocommunautés pour bénéficier de cette solidarité matérielle. » Donc d'abord, ça veut dire qu'effectivement, elle est bien à l'intérieur de la communauté, puisque pour en bénéficier, il faut faire partie de la communauté. Vous voyez, il y a des gens qui essaient d'en profiter d'une manière ou d'une autre, et puis qui ne sont pas forcément très sincères, mais qui viennent profiter de ça. Vous voyez, c'est-à-dire qu'après, il y a des réalités extrêmement concrètes, comment on réussit à utiliser notre argent pour la solidarité, jusqu'à quelle extension. Mais... ce qui est vrai aussi, c'est qu'à partir du milieu du 3e siècle et du 4e, et quand il y a eu, à partir du moment où en plus le christianisme est légalisé, qu'il a beaucoup plus de moyens, qu'il a des évêques qui sont des figures publiques, qui peuvent, on construit des hospices, des hôpitaux, des véritables structures de solidarité matérielle qui sont destinées beaucoup plus largement à la population. Et donc, je pense que c'est quand même pas mal une question très très pragmatique de moyens. Dont on dispose. Pour ce qui est des influences du judaïsme, moi je pense quand même que c'est assez important. C'est-à-dire que il y a de façon générale dans le judaïsme une pensée très importante tournée vers les pauvres, vers ceux qui ont besoin de l'aumône, de pratiques caritatives. Alors les structures effectives dans les communautés juives de l'époque de Jésus ou environnantes sont en fait assez mal documentées. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de voir exactement ce qui pouvait se faire à son époque, d'autant que pas mal de sources sont un petit peu postérieures. Donc voilà, c'est sûr que très très concrètement, pour ce qui est des pratiques, on n'est pas toujours très très bien documenté. Mais dans l'esprit de beaucoup de textes qui fondent vraiment le judaïsme, oui, c'est quand même quelque chose de très important. Et pour le coup, ça apparaît nettement plus important que dans la culture romaine ou grecque. Et c'est clair que c'est en premier lieu de là que ça vient. Jésus, de façon, voilà, est juif, a baigné là-dedans. Et c'est pas là-dessus. Il y a des éléments d'originalité dans les formes que prennent les pratiques. Voilà ce que j'essaie de montrer dans le livre. C'est-à-dire que là, il y a des communautés qui fonctionnent d'une façon particulière, qui, y compris par rapport, par exemple, à l'inspiration essénienne, se distinguent, même s'il y a des ponts. Voilà. Donc il y a une originalité, mais c'est clair qu'elle a de fortes racines dans le judaïsme. C'est très, très net. Ouais. Voilà, mon point de vue. Voilà.
Merci beaucoup. Vous pouvez formuler d'autres questions si vous le souhaitez, soit à l'écrit, soit à l'oral. Allez-y. Donc ça, c'est une question pour moi, j'imagine, ouais. Je répète pour qu'on entende, pour que ceux qui sont à distance entendent, qu'est-ce qu'il faudrait changer, destituer dans l'église d'aujourd'hui pour qu'on passe d'une église pour les pauvres à une église des pauvres? Ça va, je résume bien en disant ça. Je dirais, d'abord peut-être que d'autres dans la salle auront des réponses à cette question, donc si c'est le cas, n'hésitez pas. Je dirais pour ma part que la question du partage des voix me semble une question absolument centrale. Parce que une raison fondamentale d'être chrétien, c'est que la parole, nous la reconnaissons comme juste et nous reconnaissons qu'elle peut configurer notre existence. Et donc, qui est légitime pour commenter cette parole? Alors, il y a dans la tradition chrétienne une légitimité magistérielle pour repousser ceux qui s'opposeraient à l'évangile ou à la foi ou qui en seraient une interprétation tordue. Il y a aussi une légitimité académique. Mais sans doute qu'on fait trop peu de cas de la légitimité existentielle. Et donc ça, c'est probablement un besoin pour les évêques et les prêtres d'une part, pour les universitaires aussi d'autre part, à reconnaître pas seulement la force ou la beauté de ces paroles, comme on le dit parfois, elles ont de la force et de la beauté, mais aussi l'intérêt, les intuitions qu'elles portent et leur capacité à nous orienter. Là, il y a, me semble-t-il, un chantier qui tient à ce qu'est notre Église, qui demande à la fois de faire un peu de ménage dans nos manières d'écouter et de parler, et qui a, je crois, la possibilité de transformer des choses à l'intérieur de l'Église. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, je m'arrête là après, la deuxième chose, c'est que sans doute notre Église sous-estime, en tout cas notre Église catholique en Europe occidentale, sous-estime le sens politique de son existence. C'est-à-dire que nous existons parce que celui que nous reconnaissons comme Messie, envoyé par Dieu, est mort crucifié, rejeté, Christophe, tu rappelais ça tout à l'heure, et que Dieu l'a placé comme pierre d'angle et nous invite à nous rassembler autour de lui. C'est-à-dire que dans ce qui nous fait comme Église, il y a la violence de ce monde et le fait que Dieu réagisse contre la violence de ce monde et recompose autrement. Non pas comme dans le déluge en balayant tout le monde pour refaire à partir de zéro, mais en recomposant autour de celui qui se trouve crucifié, mis à l'écart, etc. etc. Et alors là, ça se fera pas, c'est pas le genre de recomposition qui se fera d'un coup de baguette magique dans l'Église, surtout dans une Église de plus d'un milliard de personnes. Mais il me semble que nous avons à redécouvrir le sens profondément politique du simple fait que nous existions. La violence de ce monde, la marginalisation, l'oppression de ce monde, c'est intimement lié à ce que nous sommes comme Église, et donc nous ne pouvons pas nous penser sans ça. Alors je répète pour que ceux qui sont à distance entendent, quelle est la source théologique de la théologie de la libération qui est née après le Concile Vatican II en Amérique latine, d'une part, et d'autre part, est-ce qu'elle est toujours d'actualité dans l'Église ?
On peut le dire rapidement, les théologies de la libération, parce qu'on parlait au pluriel en fait, sont nées dans un contexte. Les théologiens de la libération insistent beaucoup sur l'enracinement de leur réflexion dans un contexte marqué par la pauvreté ou l'injustice, l'oppression politique. Et dans ce contexte, un certain nombre de chrétiens se sont réunis dans ce qu'on appelait les communautés de base, ont lu ensemble des textes de l'Écriture, par exemple le récit de l'Exode, la libération du peuple hébreu sortant de l'Égypte, ou encore la libération de l'exil, la fin de la servitude, et puis un certain nombre de textes majeurs des évangiles, comme par exemple la parabole du jugement dernier au chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. Et ces chrétiens ont trouvé dans ce partage des voix, dans cette lecture commune des Écritures, eh bien une force renouvelée pour revenir dans ce contexte qu'ils n'avaient jamais quitté en fait, pour essayer d'œuvrer en faveur d'une libération, en faveur d'une amélioration des conditions de vie de leurs compatriotes, de leurs concitoyens, etc. Voilà, en quelques mots. À partir de là, les théologies de libération ont pris des formes très diverses. Le second versant de votre question, c'était est-ce que c'est toujours d'actualité ? Ben oui et non. Oui, dans la mesure où il y a toujours des chrétiens en Amérique latine et dans d'autres continents, parce que les théologies de la libération, en fait, ont essaimé dans d'autres continents en particulier aujourd'hui. À mon avis, c'est dans le continent asiatique que les théologies de la libération sont les plus vivantes. Je pense à des théologiens comme Alusius Piris à Sri Lanka, qui a écrit un ouvrage pour une théologie asiatique de la libération. Mais c'est vrai que, même s'il y a toujours, ce courant existe toujours, eh bien, il est concurrencé par un certain nombre d'autres courants, en particulier, puisque c'était, je pense, à ça que vous pensiez, dans le contexte d'Amérique latine, la montée des églises pentecôtistes. Il y a un certain nombre de... Le fait aussi qu'on est de plus en plus sensible, on a été rendu de plus en plus sensible aux questions posées par la confrontation, la rencontre des cultures aborigènes. Tout ça a fait que les intuitions initiales et les méthodes initiales des théologies de la libération ont été discutées et parfois contredites. En plus de ça, il y a eu toutes les objections qui étaient faites. On a reproché à certains théologiens de la libération de reprendre à leur compte des analyses marxistes de la société. Enfin, voilà, la question est complexe, mais je termine cette petite intervention en disant, moi j'ai été très marqué par ce qu'avait dit un jour Gustavo Gutiérrez, qui est vraiment l'un des pères de la théologie de la libération. Il a écrit un ouvrage qui porte ce nom, Théologie de la libération. Il était venu ici même, dans ce qui s'appelait à l'époque le Centre Sèvres, et à la suite de son intervention, et en réponse à une question, il avait dit, la théologie de la libération peut très bien disparaître. Mais il y a une chose qui ne peut pas disparaître et qui ne disparaîtra jamais, c'est l'option pour les pauvres. Parce que ça, c'est l'évangile.
Très, très rapidement, je dirais, alors là, je dirais au fond que ça engage que moi, là, on parle aussi de choses contemporaines et peut-être au-delà de la question de la perspective d'historien, mais il me semble que à avoir beaucoup travaillé sur ces premiers textes chrétiens et sur leurs pratiques et leurs idées en termes d'économie et de société, sur l'argent en tout cas, vous disiez qu'est-ce qu'il faut faire au fond, qu'est-ce qu'il faut voir. Il me semble que c'est difficile, c'est pas prescriptif, hein, c'est une suggestion, après on pense qu'on veut, que c'est quand même difficile d'éviter la question énorme qui me paraît être, de ce que j'en vois, pour moi, l'extrême différence, voire la, à mon avis, même la contradiction massive qu'il y a entre la logique d'accumulation individuelle qui est portée par le capitalisme et les premiers textes chrétiens. C'est-à-dire que je pense qu'il y a, de mon point de vue, et après on peut être d'accord ou pas, hein, mais il y a une différence qui relève de la contradiction. C'est tellement fondamentalement opposé que j'ai du mal à voir comment on peut tenir les deux choses en même temps. Or, nous sommes dans des sociétés qui sont quand même massivement capitalistes, et donc il y a une question à se poser, si vous voulez. C'est-à-dire que, me semble-t-il, après, évidemment, la réponse n'est pas facile, hein, sur ce qu'il faut faire exactement, quand bien même on serait d'accord avec cette contradiction massive. Mais voilà, je lance un peu, c'est vrai que c'est une énorme question, mais je crois qu'il y a quand même une contradiction massive.
Alors, on va prendre deux dernières questions. Vas-y, Alban et puis Anne Béthafira. C'est chapitre 5 des apôtres. Il faudra commencer par le raconter pour qu'on soit tous au même niveau d'information.
Alors, sur la question du tournant du 3e siècle, au fond, comment il s'explique? C'est aussi un peu ça que vous voulez savoir. Pourquoi il y a ce tournant? Alors, je pense que c'est progressif. D'abord, il y a... Tout n'est pas facile à expliquer, mais je dirais que d'un point de vue strictement matériel, il y a vraiment une transformation des conditions matérielles d'existence des communautés du fait qu'elles ont désormais beaucoup plus de moyens, mais vraiment beaucoup plus. Certaines personnes, à ce moment-là, qui se convertissent au christianisme, peuvent, dans un certain nombre de cas, être riches. Et quand on est riche dans l'Empire romain, on est riche. C'est-à-dire que, voilà, on peut nourrir des pauvres par milliers si on veut, hein. Et donc, les moyens, je veux pas dire que ça y est, toutes les communautés nagent dans l'argent, c'est pas ça. Mais je veux dire, il y a quand même beaucoup plus de facilité en termes d'existence matérielle, même si on est sur un moment de pic répressif, mais qui dure pas si longtemps, puis après ça se recalme, ça revient. Bon, mais c'est pas une énorme période à ce niveau-là. Et donc, je pense que ça change pas mal de choses, si bien sur la question de la propriété, quoi. Parce que finalement, si l'argent de la communauté a vocation prioritaire à nourrir les pauvres, mais que en un don d'un riche, ça suffit pour des mois, bon, vous voyez, ça a plus les mêmes conséquences. Et donc, au bout d'un moment, que ça n'a plus ses conséquences, ça finit par s'effriter un peu, ce principe. Voyez. Après, il y a d'autres logiques. Je pense que à un moment donné, les communautés chrétiennes, je pense, se sont positionnées avec une certaine originalité par rapport au contexte culturel dans lequel elles étaient, en ayant aussi leur fond qui est très fortement lié au judaïsme, avec peut-être beaucoup de gens qui venaient du judaïsme aussi au début, majoritairement dans certaines communautés. Bon, et puis on a porté cette idée pendant un certain temps. Puis, moi, je pense qu'il y a un effet de romanisation, si vous voulez, des communautés chrétiennes au fur et à mesure sur un certain nombre de points, qui font que leur organisation matérielle finit par ressembler plus à certaines structures qu'on a dans l'Empire romain, y compris dans leur logique hiérarchique, vous voyez. Et ça va jusqu'à un certain nombre de choses. Ça va aussi sur des terrains très différents de ceux de l'argent, mais moi je trouve que à partir de la première moitié du IVe siècle, on voit aussi la pensée chrétienne sur le rapport entre, par exemple, le religieux et le politique bascule énormément et est rattrapée par un certain nombre de façons de penser qui sont très romaines. Hein. Mais c'est aussi parce que le pouvoir romain qui devient chrétien est très romain et qu'un certain nombre de choses ont un impact. Donc je pense que là, il y a culturellement quelque chose qui fusionne un peu. Il y a des influences de part et d'autre qui amènent à ces évolutions. Ça serait deux éléments, je dirais, que je mobiliserais en particulier. Je pense qu'on pourrait beaucoup en parler encore. Il y aurait d'autres choses, mais ce sont les deux choses saillantes qui me viennent. Pour ce qui est Ananias et Saphira, alors on est juste après les descriptions de la communauté qui met en commun beaucoup pour nourrir les pauvres. Et puis, il y a ces deux malheureux qui répondent à cet appel et puis qui disent qu'ils ont vendu tous leurs biens et qui mettent l'argent, qui donnent l'argent aux apôtres. Et on découvre qu'en fait, ils n'ont pas tout vendu et qu'ils ont gardé une partie pour eux. Et donc, Pierre dit, mais pourquoi as-tu menti ? Tu pouvais garder une partie, c'était pas obligé que tu vendes tout. Mais le fait de mentir, d'avoir fait croire que tu avais tout vendu et d'avoir gardé pour toi, ça c'est grave. Et boum, il est foudroyé. Et puis sa femme arrive un peu après et est foudroyée aussi. Alors oui, cet épisode est assez étonnant, il faut bien le dire. C'est-à-dire que c'est pas le commun des épisodes. En vérité, c'est un apax néo-testamentaire. Je veux dire, c'est un truc où il y a un bonhomme qui est foudroyé comme ça, c'est... ça étonne. Moi-même, je ne cesse d'être étonné par cet épisode. C'est quand même très particulier. Et justement, j'ai même un petit peu de mal à l'expliquer. Je vais vous dire pourquoi. Parce que pour moi, justement, une chose absolument fondamentale de la pensée chrétienne et de tout ce qui fait les textes chrétiens de cette époque, du deuxième, troisième siècle, c'est la perspective eschatologique. Le châtiment divin, c'est pas sur terre, c'est à la fin des temps. Donc le bonhomme foudroyé, il s'explique pas si bien. Parce que, et quand on lit les textes chrétiens, normalement c'est ça. Justement, c'est tout ce qu'il voulait. Alors ça a des implications énormes pour moi, pour la pensée chrétienne, y compris dans son rapport aussi au pouvoir politique. Hein. Mais je veux dire, on est dans un contexte où, on est en plus, le problème c'est que ça me demande un peu de temps, il faudrait pas que je déborde, mais... on est dans un contexte culturel, pour aller très très vite, hein, qui est le monde gréco-romain, qu'il faut pas caricaturer, mais où a priori on considère qu'un certain nombre d'événements naturels ou qui se passent dans le monde sont le résultat d'une faveur ou d'une défaveur divine, hein, et qui peut amener à ce qu'on soit puni, on perd une bataille parce que les dieux n'étaient pas contents, des choses comme ça. Bon, et il me semble que là, du côté des chrétiens, il y a quelque chose de fondamentalement différent. C'est-à-dire que les événements qui se produisent sur terre, c'est pas un châtiment divin ou une faveur divine, ce sont éventuellement des épreuves. Mais le vrai châtiment, c'est le jugement dernier. Vous voyez ? Donc, je dérive peut-être un petit peu de l'aspect économique, mais pour moi, c'est la source d'étonnement fondamental. Alors, entendons-nous, dans l'Ancien Testament, par contre, des châtiments, il y en a à l'appel. Hein, ça, j'entends. Et donc, l'influence doit venir de là, hein, bien sûr. Mais pour moi, c'est une distinction assez nette dans le Nouveau Testament. Et c'est quelque chose qui est plus du tout central. Contrairement à tout un tas de récits hétérotestamentaires où là on a des châtiments divins assez régulièrement. Et donc ce bonhomme foudroyé, oui. Alors ce qu'il veut dire, je pense, ce que ça veut au moins dire, c'est que l'enjeu était absolument crucial pour ces communautés. C'est que pour qu'on ait un épisode de cette violence, tout à fait étonnant, et difficile à fonder, me semble-t-il, dans le reste des textes, j'entends, néo-testamentaires, hein, après c'est pas encore une fois, si on fait des références hétérotestamentaires, on a plus de facilité, c'est quand même que l'enjeu était absolument majeur. Et que donc le respect des règles de solidarité matérielle dans la communauté était considéré comme fondamental. Et de toute façon, regardez un autre exemple de malhonnêteté purement matérielle vis-à-vis de l'argent dans les évangiles, c'est qui ? C'est Judas, il vole dans la caisse. Vous voyez ? C'est dit, hein ? Il tenait la caisse et il volait dedans, chez Jean, il le dit. Donc, vous voyez, donc là, on ne peut pas faire figure plus négative. Et donc, il me semble que ça montre que c'est vraiment un enjeu majeur. Voilà. Mais on pourrait dire d'autres choses, parce que j'ai pas trop débordé.
Merci beaucoup, c'était une bonne manière de terminer cet échange. J'ajoute deux informations. D'abord, aux facultés Loyola, il y a de nombreux rendez-vous à venir sur des thèmes voisins de celui de ce soir. J'en mentionne simplement, mais vous en trouverez d'autres sur le site internet. Le samedi 24 janvier 2026 se tiendra la troisième session Diaconie, qui sera une journée d'études à partir d'œuvres d'art réalisées par des personnes en grande précarité, qui commentent par des œuvres d'art la création du monde, qui l'illustrent aussi, mais aussi la tension, la crise de la création aujourd'hui et leur espérance. Ce sont des personnes de la communauté du Sapel qui ont été accompagnées par des artistes. Et donc, il sera possible de participer à cette journée sur place ou en ligne. Et vous pouvez déjà vous inscrire. Deuxième information et dernière, en sortant pour ceux et celles qui êtes dans la salle, vous trouverez une table librairie sur laquelle il y a les deux ouvrages de Jonathan Cornillon dont nous avons parlé, mais aussi des ouvrages des intervenants de la soirée ou en rapport avec notre thème. Merci beaucoup Jonathan Cornillon, merci à Christophe et Michel, merci à vous tous et toutes d'avoir participé à cette soirée.